السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. en ce cours numéro 75. نعم. donc dans Riyad Salihin, toujours avec le hadith numéro 60, le de Jibril alayhi salam. طيب. donc la fois passée on s'était arrêté où que parmi l'un des piliers de la foi, l'un des six piliers de la foi, il y a quoi? Il y a la foi aux prophètes. Plutôt au messager. Naam, Rasul. L'iman bil Rasul. La foi au messager. Donc, avant cela, on avait parlé de la foi aux anges. Qu'il fallait croire en les anges. Mais dans les anges, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai dit seulement ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Ensuite, j'ai commencé par la foi en les messagers. Et maintenant, je décide d'aller, de donner un peu de détails dans yani, la foi dans les messagers. Ensuite, j'ai dit pourquoi, j'ai regretté, j'ai dit pourquoi j'ai pas donné beaucoup dans la foi, dans les anges. Donc peut-être quand on termine les messagers, on revient aux anges. Même si c'est, yani, c'est pas bien dans le classement, mais c'est pas mal. Dans la foi aux anges, on va choisir certaines choses, inshallah ta'ala, qui sont très importantes à savoir dans la aqida de Al-Sunna ou Jama'a, entre autres. Ce qu'il faut savoir, que les prophètes et les messagers, hein, leur nombre est très important. Leur nombre est très important. Alhamdoulilah, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans Mishkat al-Masabih. Et Ahmed aussi, Ahmed l'imam, Ahmed l'a rapporté. Et il se trouve aussi dans Mishkat al-Masabih 322. Et Cheikh Al-Albani, il dit qu'on avait posé la question, c'est Abu Dhar qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit c'est combien, yani, quel est le nombre des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu mi'atu alf wa arba'atu ishrun. Il a dit le nombre des prophètes c'est 124 000. 124 000. الرسل من ذلك 315 جمّ غافرة. Et dans cela il y a quoi? Il y a 315 messagers. Donc 124 000 prophètes, nam. Et dans cela il y a 315 messagers. 315 messagers. Donc c'est un hadith authentique bi'idhnillah. Tayyib. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que on ne connaît pas tous les noms des messagers et des prophètes. On ne les connaît pas tous. Naam. Mais que c'est exactement comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il a dit dans Sourate Nisa 164. Il a dit wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl. Il a dit qu'il y a, non, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc il y a des messagers qu'on ne connaît pas. Ceux qu'on connaît, on doit croire en eux avec leur nom. Comme on a dit une fois. Ceux qu'on ne connaît pas, on croit comme ça en général qu'il y a 124 000 prophètes. 124 000 prophètes. Parmi ceux qui ont été cités dans le Coran, il y en a 25. Il y en a 25. Si je dois les citer très vite, donc je dis alayhi salam, Adam, Ad, Afoun, Adam, Houd, Salih, Shouaib, Ismaïl, Idriss, d'où le Kefl, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Nuh, Daoud, Suleyman, Ayoub, Youssouf, Moussa, Haroun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismaïl, Yassa, Younous, Lot. Non. Donc ils sont 25 qui ont été cités dans le Coran. Parmi ces 25, il y a seulement 4 qui viennent de la descendance des Arabes. Seulement 4 qui viennent des Arabes. Quand on dit Arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils viennent de Yani Ismaïl. Car vous savez que notre père Ibrahim alayhi salam avait beaucoup d'enfants. Entre autres, les deux les plus connus, entre autres, il avait Ismaïl et Ishaq. Ismaïl et Ishaq. Ismaïl de Hajar et Ishaq de Sarah. Non. Donc de Ismaïl, qu'est-ce qu'il y a eu? De Ismaïl, il y a eu seulement yani, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a une grande, yani, comment on dit, c'est pas distance, un grand vide entre Ismaïl, ensuite, enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant, bien sûr, il y avait qui? Il y avait, est-ce que j'ai cité les quatre? Je crois que je les ai pas cités. Les quatre, c'est Houd, Salih, Shu'aib et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, Houd, Salih, Shu'aib et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'avais dit, entre Ismaïl et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a bien sûr, il y a un grand vide. Sinon, de Ishaq est venu, comme vous savez, Yaqub. Ensuite, Yaqub a donné yani, Youssouf. Et la descendance, c'est pour ça que Yaqub, comment qu'on l'appelle? Yaqub, son nom c'est Israël. Israël. Is qui veut I. Israël. Is qui veut dire Abd. Attendez, Israël. Abd Allah. Naam, Abd Allah. Naam, Israël. Abd Allah. Israël, donc c'est qui? C'est un messager qui s'appelle comment? Qui s'appelle Yaqub, le père de Youssouf et ses frères. C'est pour ça que les savants disent on ne doit pas dire des juifs les Israélites ou bien les Israéliens ou bien du pays ou de la ville, on dit Israël parce qu'en fait, eux ils l'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi les messagers. Non. Si tu dis c'est un Israélien. Ça veut dire qu'il suit Yaqub. Alors que ce n'est pas vrai, ils ne suivent pas Yaqub. Ils ne suivent pas Yaqub. Mais on dit les Juifs, on dit les Yahoud. Non. C'est pour ça que, donc, Ishaq. Donc, Ishaq a donné Yaqub, qui est Israël. Et Yaqub a donné, bien sûr, sa descendance, entre autres, Yani Youssef et les enfants. On dit qu'on n'entend pas. On me dit qu'on ne m'entend pas. Alhamdoulillah. Alhamdoulillah. Donc, Ibrahim alayhi salam, qui a eu entre autres Ismaïl et Ishaq. D'Ismaïl est venu notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. Et d'Ishaq est venu Yaqub, qui s'appelle Israël. Et de Yaqub sont venus qui? Sont venus les enfants d'Israël. Entre autres qui? Entre autres les enfants d'Israël. Entre autres qui? Entre autres Moussa. Moïse et Issa et Jésus. C'est pour cela que quand on dit Benou Israël dans le Coran, Benou Israël, les enfants d'Israël, beaucoup croient que les enfants d'Israël, c'est seulement les Juifs. C'est-à-dire ceux qui viennent de ceux qui suivaient Moussa. Alors que ce n'est pas vrai. Même les chrétiens sont les enfants d'Israël. Parce que y a Issa, Jésus. Et Jésus vient de qui? Quand on monte l'ascendance, il vient de Israël qui est Yaqub. Non. Tayeb. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ensuite, ce qu'il faudrait savoir que C'est si on, non, si on ne croit pas en un seul messager, ça veut dire on n'a pas cru en tous les autres. C'est comme ça. Non. Et là, j'oublie pas de dire une chose. J'oublie pas de dire une chose. Ça me rappelle aussi une chose. C'est pour ça que la fois passée, on m'avait posé une question sur Benou Israël. Benou Israël. Et on m'avait posé plutôt la question, pourquoi les Arabes? Pourquoi les Arabes, yani, n'ont-ils pas suivi le dernier messager? Issa, Jésus. Et pourquoi ils ont, yani, ils ont suivi Ibrahim? Je dis donc, parce que yani, les messagers autrefois, Allah Ta'ala les envoyait spécialement à des peuples, pas pour tout le monde. Contrairement à notre messager, alayhi sallam, qui a été envoyé à toute l'humanité, voir les djinns, voir les animaux. Naam. Yani les animaux, c'est-à-dire il leur fait du bien, etc. Quand il nous apprend qu'il ne faut pas leur faire de mal, etc. Mais avant le messager, notre messager, alayhi sallam, tous les messagers étaient envoyés à leur peuple. Donc, Moussa, c'est les juifs que l'on suivit, et Zama à leur époque. Ensuite, Issa, même spécialement pour yani, aussi ceux qui ont suivi Moussa. C'est la continuité. Arabe n'avait rien à voir avec Issa ou Moussa. N'avait rien à voir. C'est pour ça qu'ils suivaient eux qui? Ils suivaient yani, de ce que venait de Ibrahim alayhi salam et de Ismaël. Non. Donc on revient, on dit, si quelqu'un, en islam, si quelqu'un dit, je crois en tous les messagers, mais par exemple, sauf en celui-là, il cite quelqu'un, il dit, sauf celui-là, je ne crois pas en lui. Comme font maintenant, par exemple, les chrétiens, on les juifs, ils te disent, oui, non, je reconnais que il y a né tel et tel messager, mais je ne crois pas en Mohammed, je ne crois pas en lui. Non. Donc toute personne qui ne croit pas en un seul messager, elle devient quoi? Elle devient mécréante. Elle devient mécréante. La preuve, regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Shu'ara. Sourate Shu'ara, les poètes 105. Il a dit, Kadabat qawmu nuhin al-mursalin. C'est poète, les poètes 105. Regardez le verset. Qu'a-t-il dit? Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Alors que vous êtes d'accord avec moi que Noé lui-même, c'est le premier messager. C'est le premier messager. Donc il n'y avait pas avant lui de messager. S'il y a, il y a un prophète, Idriss, pour certains. Mais pas de messager. Mais qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le peuple de Noé traita Noé de menteur. C'est ça les messagers. Les messagers ici, même Noé. Noé lui-même a été traité menteur par ceux qui le suivent, par son peuple. Par son peuple, il a été traité menteur. Et Allah Ta'ala n'a pas dit le peuple de Noé l'ont traité menteur. Il a dit traita de menteur les messagers, tous les messagers. Pourquoi? Car si tu ne crois pas en Noé, en Noé, c'est-à-dire que tu n'as pas cru en tous les autres. Tu n'as pas cru en tous les autres. Et Allah Ta'ala a dit aussi dans un autre verset, Sourate An-Nisa 105, 150, Sourate An-Nisa 150, il a dit, Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi, wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi, wa yaquluna nu'minu bi ba'din, wa nakfuru bi ba'd, wa yuriduna dhalika sabila, ulaika humul kafiruna haqqan. Sourate An-Nisa 150. Sourate An-Nisa 150, je répète, إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض. الله تعالى parle de certains qui disent quoi? Ils disent on croit en certains messagers. ونكفر بعض ببعض et on mécroit en d'autres. الله تعالى dit أولئك هم الكافرون حقا. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons certains d'entre eux, mais ne croyons pas. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, continue, musulman. Continue le verset. C'est le, comment on appelle, le témoin du cours. Ce qui va venir, c'est ça le témoin du cours. Lorsque Allah Ta'ala a dit, Oulaika humul kafirun haqqa. Après cela, Allah Ta'ala a dit, ceux-là, Certes, les voilà les vrais mécréants. Les voilà les vrais mécréants. Le vrai mécréant, c'est comme s'il y avait, yani, un faux mécréant et un vrai. Non, parce qu'il y a aussi dans les croyants. Il y a le mu'minoun et le mu'minoun haqqa. Donc les vrais mécréants, les grands mécréants, je crois en certains messagers et je ne crois pas en d'autres. Je crois en certains et je ne crois pas en d'autres. Non. Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? Autre chose, inshallah ta'ala. Maintenant, non. Quels sont les statuts de la révélation chez Allah subhanahu wa ta'ala? Dans Sourate Shura, verset 51. Sourate Shura, verset 51. Allah ta'ala va montrer dans ce verset les différentes phases, non, ou les situations lorsqu'il a une révélation. Il a dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation, ou derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager. Donc, remarquez avec moi, il y a trois sortes, et trois façons d'envoyer la révélation. Trois façons avec lesquelles ces façons que Allah subhanahu wa ta'ala parle avec un mortel. Il n'a pas été donné un mortel, sauf si quoi, ou bien par révélation, ou bien derrière un voile il lui parle, ou bien il lui envoie un messager. Il n'y a pas une quatrième façon. Trois façons. Ou bien par révélation, wahi. On va voir ce que ça veut dire. Ou bien derrière un voile, il lui parle, ou bien il lui envoie un messager. Bon, la première façon. الإلقاء في روع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يمتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله سبحانه عز وجل. كما في صحيح ابن حبان عن رسول صلى الله عليه وسلم. طيب. Par révélation, il lui révèle. C'est que Allah سبحانه وتعالى inspire comme ça dans son cœur. نعم, dans son cœur. نعم. De façon à ce qu'il sente dans son cœur, نعم, que يعني Jibril, par l'intermédiaire de Jibril, non, que yani Allah Ta'ala lui a dit quelque chose. Comme dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ruh al-Qudus, c'est-à-dire Jibril, non, m'a inspiré dans mon cœur, non, ou là dans à l'intérieur de moi, dans mon fort intérieur. Qu'est-ce qu'il m'a fait inspirer? Que quoi? Qu'aucun être vivant, ou là une personne, ne meurt avant que elle ne prenne toute sa subsistance. Et qu'aucune personne ne meurt avant quoi? Avant que n'arrive son délai. Ensuite, il a dit, Ftaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ou ajmilu fi talab. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et, yani, quand vous demandez des choses, demander d'une façon yani qui soit exemplaire, c'est-à-dire il faut bénir, etc. Pourquoi? Car il t'a averti que tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu prennes toute ta subsistance, risque. Tu ne vas pas mourir et laisser une partie d'argent qui devait t'arriver. Tu ne vas pas mourir et ne pas prendre ton héritage. Tu ne vas pas mourir et ne pas te marier. Tu ne vas pas mourir et ne pas avoir une chose, ou là, des enfants, ou là. Sauf bien sûr ce qui ne t'a pas été écrit. Tout ce qui t'a été écrit, jamais tu ne puisses mourir, tu ne mourras jusqu'à ce que tu aies ta subsistance. Que Allah Ta'ala t'a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. C'est pour ça qu'il a dit, alors quand tu demandes, ne t'avilis pas. C'est écrit que tu vas avoir cette chose, si cette chose est écrite, tu vas l'avoir. C'est pas la peine de tendre la main et de pleurer. Non. Donc ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est la première sorte. C'est par révélation qu'il lui envoie Jibril pour qu'il lui fasse inspiré quelque chose dans son cœur, qu'il sente comme ça dans son cœur, naam, que Allah Ta'ala veut lui dire telle et telle chose par l'intermédiaire du Jibril. Et des fois, toujours dans la première façon, des fois c'est par rêve, quand le prophète sallam est endormi. Les prophètes, comme vous savez, le shaitan ne les approche pas, naam, ne les approche pas dans le rêve, comme chez nous par exemple, le rêve érotique. Il n'y a pas ça chez les messagers. Les messagers, quand ils voient une chose dans le rêve, naam, elle vient exactement comme ils l'ont vue. Elle voit exactement comme ils l'ont vue. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam, quand il a vu dans le rêve qu'il devait quoi? Qu'il devait égorger son fils, il n'a pas hésité à le faire. Comme l'a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Saffat, 102-105, lorsqu'il a dit, فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعِي, lorsqu'il a vu que son enfant assez pour marcher avec lui, قَالَ يَا بُنَيْ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ, il lui a dit, mon fils, j'ai vu dans le rêve que je devais t'égorger. فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى, donc, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim lui dit, mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël répondit, oh mon père, mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît Allah, du nombre des endurants. Puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes, tu as confirmé la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc, Ibrahim alayhi salam n'a pas dit, non, c'est peut-être shaitan, c'est ou soit, c'est ceci. Pourquoi? Parce que les rêves et les songes des messagers, ce sont quoi? C'est de la révélation. C'est de la révélation. Vous remarquez ici, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand il lui a dit, j'ai vu que je devais t'immoler, il lui a dit, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Non, mon cher père, hein, il va l'immoler, lui dit, mon cher père. Il n'a pas dit, j'appelle la police. Il n'a pas dit, j'appelle la police. Il a dit, mon cher père, fais ce qui t'est commandé et tu me prouveras, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, s'il plaît à Allah, durant. Yani, il mène des deux côtés, du père et du fils. Et quand Ibrahim a voulu faire ce qu'il a vu dans le songe, Allah Ta'ala lui a dit, non, c'était juste une épreuve. Naam, je voulais voir, et il savait, Allah Ta'ala voir, savait bien sûr. Je voulais t'éprouver pour que tu saches toi-même si yani, tu fais ce que je te demande de faire ou alors tu ne fais pas. Ibrahim alayhi salam n'a pas hésité un instant, comme vous le savez. Donc la preuve aussi que ce que voient les messagers dans les rêves, que ces révélations, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, Ishaqi a dit de lui, elle a dit, أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وحي الرؤيا الصالحة في النوم. Elle a dit, la première des choses avec laquelle a commencé le prophète صلى الله عليه وسلم de la révélation, نعم, la révélation, quand elle a commencé, elle a dit, elle a commencé par le rêve véridique chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Elle a dit, quand il dormait, il voyait un rêve véridique. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثله فلقي الصبح. Elle a dit, et jamais il ne voyait un rêve sans que, yani, il s'exauçait exactement comme s'exauce le lever, yani, du matin. Yani, la nuit, quand on dort, on peut retenir la nuit, hein? On peut, combien? 5h, 10h, 8h, ensuite, il faut que le matin se lève, le soleil se lève. Il faut qu'il fasse jour. Naam, elle a dit la même chose, le prophète Hassan, quand il voyait une chose, il faut que cette chose, naam, se voyait, yani, s'exaucer exactement comme le lever du jour, le lever du jour. Donc tout ça c'est quoi? Tout ça c'est la première façon, ou bien Jibril il vient, comme j'ai dit, pour l'inspirer dans son cœur, ou bien Allah Ta'ala fait voir au messager quelque chose dans le songe. Et la deuxième révélation, la deuxième des choses, quand il a dit au minwara et hijab, il a dit derrière un voile. Allah subhanahu wa ta'ala parle à quelqu'un derrière un voile. Derrière un voile, qu'est-ce que ça veut dire derrière un voile? Ça ne veut pas dire qu'il yani, va mettre un voile comme ça, un drap, et lui parle. Ça veut dire tout simplement que Allah ta'ala parle avec certains messagers sans qu'ils le voient. Ils l'entendent, mais ne le voient pas. Par exemple, Moussa alayhi salam, il est connu que on l'appelle Kalimullah, on l'appelle que yani, il a cette spécificité que quoi, que Allah Ta'ala lui a parlé. Mais beaucoup yani, oublient ou ne savent pas. Ils oublient que Moussa alayhi salam, c'est pas le seul Allah, auquel Allah Ta'ala a parlé. Allah Ta'ala n'a-t-il pas parlé à Adam? Il n'y a pas dans le Coran le dialogue entre Allah et Adam quand il a parlé entre Adam et avant cela. Allah Ta'ala n'a-t-il pas parlé aux anges? N'a-t-il pas parlé aux anges? N'a-t-il pas parlé avec notre prophète alayhi salam quand il a fait l'ascension? Il lui a pas parlé. Il lui a dit il faut faire 50 salats, etc. Naam. Donc pour ceux qui croient que Allah Ta'ala a parlé seulement avec Moussa, naam, se trompent. Al-Muhim, je donne le verset qui prouve que Allah Ta'ala par exemple a parlé avec Moussa, sourate Al-A'raf 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ سورة الأعراف 143. J'ai dit que yani, malgré ce verset, yani, y a plusieurs versets qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Adam et qu'on a eu Adam. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, son Seigneur lui eut parlé. Lui eut parlé. Donc, il lui a parlé. Et il a parlé aussi à Adam. Qu'on a eu Adam ou un bi-asma'ihim. Lorsque Ta'ala Adam, les noms des choses, il a dit, alors, dis-leur. Dis-leur c'est quoi, comment s'appelle cette chose, ça veut dire la montagne, le ciel, la terre, la mer, et comme ça. Dis aux anges, dis aux anges. Et ici, pour ne pas oublier, ici, lorsque Moussa, alayhi salam, a demandé à Allah, pas dans ce verset, dans un autre, lorsque Moussa, alayhi salam, a demandé à Allah, Ta'ala, qu'il le voit. Naam. Allah Ta'ala lui a parlé aussi. Il lui a dit à Moussa, regarde, regarde la montagne là-bas. Regarde la montagne là-bas. Si elle, qui n'est pas de chair, d'os et de sang, mais elle est de cailloux, de roches et de blocs. Si elle, elle peut me voir, toi tu me verras. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que lorsqu'il s'était montré à la montagne, elle sait quoi? Elle s'est, yani, comment on dit, démolie. Yani, elle sait, c'est pas le verbe démolie, mais la montagne elle s'est écroulée. La montagne s'est écroulée. Donc Moussa alayhi salam a reconnu que si une montagne ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, moi comment je vais le voir? Ici les savants disent que Allah Ta'ala ne s'est pas montré, yani, lui, yani, à la montagne. Mais ils ont dit que a montré de lui. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Ta'ala ici, dans l'histoire de Moussa, n'a montré de lui que il a fait comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son doigt. Avec son doigt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé le pouce sur la phalange du petit doigt, l'auriculaire. Vous voyez notre petit doigt? Hein? Il lui a montré comme ça, il a posé le pouce sur la phalange, devant, yani, de l'autre côté des ongles. Il a dit, ça veut dire que il ne lui a rien montré, juste un petit bout. Là, et la montagne est tombée. Qu'en est-il si elle avait vu Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Muhim, conclusion, dans la deuxième façon dont on est en train de parler, Allah ta'ala parle avec des messagers, mais sans qu'ils le voient. Ils entendent seulement sa voix. Et nous, on ne dit pas comme on dit les Mu'tazila. Et même les Ash'arites qui disent que Allah Ta'ala ne parle pas. Naam. Ils disent que il n'y a pas des mots. Sinon, ça devient comme nous. On dit que Allah Ta'ala parle. Naam. Parle avec des lettres comme ça. Des lettres comme ça disent Al-Sunnah. Dans Sahih al-Bukhari. Saut ou harf, voix et lettres. Naam. D'ailleurs, le Coran, le prophète alayhi sallam a dit Alif Lam Mim. Il a dit je ne dis pas Alif Lam Mim, c'est une lettre, harf. Il a dit Alif, c'est une lettre, Mim, M, c'est une lettre, Lam et Lam au milieu, c'est une lettre. Donc, Allah Ta'ala parle avec des lettres, avec une voix. Et les messagers l'entendaient. N'entendez. Naam. Il y avait une voix qui leur arriva à leurs oreilles. Comme vous maintenant, par exemple, vous êtes en train de m'entendre. J'ai une voix. Vous m'entendez. On ne dit pas comme les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à un arbre. Allah ta'ala, quand il a parlé avec Moussa, avec Moïse, Zahma, quand il est allé lui parler, ils ont dit que Allah ta'ala a parlé avec un arbre. Ensuite, Moussa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son oreille contre l'arbre. Et il a écouté la parole d'Allah qui était dans l'arbre. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ça, c'est mensonge sur mensonge, c'est déviation du Coran, c'est égarement et éloignement du Naoul Jama'a, c'est bida. Et même logiquement, c'est faux. Pourquoi? Parce que si on va dire ça, ça veut dire que l'arbre, est mieux que Moussa, alayhi salam. On pose une question très simple. Qui est mieux? Un arbre ou bien un messager? Si vous allez dire un messager, on va dire, mais d'après vous, c'est faux. Il n'a pas pu entendre la parole d'Allah. C'est l'arbre qui l'a entendu. Et si tu dis l'arbre est mieux que le messager, là, on va dire que là, tu connais rien dans le din. Tu sais pas que l'arbre, des fois, il y a des chiens qui viennent uriner dessus. Comment un messager? Messager envoyé par Allah comme ambassadeur, tu vas faire un arbre mieux que lui, c'est pas possible. Donc tu connais rien, toi, dans la religion. Al-Muhim, reste maintenant la troisième façon. La première, c'est la révélation, et ça rentre dans la révélation. Le fait d'être inspiré, et le sommeil aussi, dans le sommeil. Le songe véridique. Ensuite, on a vu la deuxième façon, c'est parler derrière un voile. Et la troisième façon, al-wahi ila rasul biwasit, c'est d'envoyer un ange. Ça, je reviens au verset haut. Attendez, je vais lire le verset. Si je le trouve, comment c'était écrit exactement. Et voilà. Par révélation, ou derrière un voile, ou qu'il lui envoie un messager, un ange. Nam, c'est la troisième façon, il lui envoie un messager. Muslim, est-ce que Rakmana, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc la troisième façon, c'est comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Shura, donc Sourate Shura 51, c'est-à-dire la fin du verset, ou yursila rasulan fayuhiya bi'idni masha, ou bien il envoie un messager, un ange, ou bien il envoie un messager, un ange. Et ce messager, c'est qui l'envoie? C'est Jibril, qu'ils appellent Gabriel, alayhi salam. Dans la plupart du temps, ou dans la plupart des temps. Dans la plupart des temps, c'est Jibril alayhi salam. Mais il arrive quoi? Il arrive que des fois, ce n'est pas Jibril. Il arrive que des fois, ce n'est pas Jibril qui est envoyé pour yani, la révélation. Ça arrive, mais c'est très, disons, très rare. Très rare. Je donne un exemple où ce n'était pas Jibril qui a ramené la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith muslim dans son sahih, d'après l'érudit savant Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, il a dit: alors qu'une fois Jibril était assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu yani un son ou une voix, un bruit, disons un bruit derrière, yani, plutôt au-dessus d'eux. Alors, au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé la tête. Faqal. Alors Jibril lui a dit: hada bab min as-sama futiha al-yawm. Ce bruit que tu as entendu, porte, une des portes du ciel qui a été ouverte aujourd'hui. Et jamais avant aujourd'hui, cette porte n'a été ouverte. Pourquoi elle a été ouverte? Elle a été ouverte et de cette porte est descendu un ange. Un ange. Ensuite, cet ange, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? Avant cela, Jibril a dit, cet ange, c'est la première fois qu'il descend sur terre. Il n'est jamais descendu sur terre. Ensuite, quand il est descendu, qu'est-ce qu'il a dit? Fassallam. Il a dit salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et peut-être aussi à Jibril. Ensuite, il a dit abshir, je t'annonce la nouvelle. Abshir ya Muhammad, je t'annonce la nouvelle. Qu'est-ce que je t'annonce? C'est quoi la nouvelle? Je t'ai ramené deux lumières. Je t'ai ramené deux lumières du ciel. Nourain. Lam yu'tahum nabiyyun qablak. Jamais aucun prophète ne les a eus avant toi. Je viens te ramener deux lumières. Je suis descendu spécialement pour toi. Jamais je ne suis descendu sur terre. Et je suis sorti ou la descendu par une porte qui n'a été jamais ouverte. Donc spécialement aussi pour toi. Pour te ramener deux lumières. C'est quoi ces deux lumières que aucun prophète n'a eu avant toi? La première, Fatihatul Kitab. La première, c'est Sourate al-Fatiha. Où on dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman ar-Rahim, Malik Yawm Din, jusqu'à la fin. Cette sourate, comme vous savez, il y a un hadith authentique qui dit, c'est la meilleure sourate du Coran. Le meilleur verset, vous le connaissez, c'est Ayatul Kursi. Mais la meilleure sourate, c'est le Fatiha. Un jour, un sahabi, on lui a ramené quelqu'un qui a été mordu par, comment il s'appelle, l'aqrab, monsieur l'animal, celui qui a, dans le désert, avec celui qui pique, comment il s'appelle, l'aqrab, j'ai oublié, scorpion, on lui a ramené quelqu'un qui a été piqué par un scorpion, le hadith il est dans le Bukhari. Qu'a fait ce sahabi? Il a lu seulement le Fatiha 7 fois sur cet homme. Et certains disent que cet homme c'était un kafir. Certains disent que c'est un kafir. Maintenant qu'il soit kafir ou pas, il a lu sur lui 7 fois. Quoi? Seulement le Fatiha. À l'instant même où il a terminé de la Fatiha la 7e fois, cet homme qui était presque évanoui s'est levé comme s'il n'a jamais été mordu par quelque chose. Pourquoi? Le Fatiha, wa ma adraka ma al-Fatiha. Et les savants disent que le Fatiha, cette sourate, c'est le résumé de tous les livres qui est précédent. Tous les livres que Allah Ta'ala a fait descendre ont été résumés dans cette petite sourate qui a sept quoi? Qui a sept versets. Subhanallah al-Azim. Le Mouhim lui a dit, je t'ai ramené deux lumières. Et le sahabi qui a fait la ruqya s'appelle Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu. Donc il lui a dit, je t'ai ramené deux lumières. La première lumière, Sourate al-Fath, et la deuxième lumière, Khawatim, Sourate al-Baqara. La fin de Sourate al-Baqara. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, wa in tudu ma fi anfusikum utrufuh, yuhasibkum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu alaykum shiqaq. Celui-là, Aman al-Rasul. À partir de là, Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Jusqu'à la fin. Naam. طيب, il a dit lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titah. Il a dit jamais tu ne lis d'une lettre de ces deux sourates, jamais tu ne lis une lettre de ces deux sourates sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne te donne la récompense. Naam. طيب. Donc ça c'est une preuve que que c'était pas Jibril ici qui a ramené quoi cette révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un ange qui était descendu spécialement. Mais comme j'ai dit, cette chose là ne se fait que rarement, sinon c'est Jibril alayhi wa sallam qui vient toujours avec la révélation. Al-Muhim. Maintenant, quand Allah Ta'ala envoie l'ange, a trois façons de venir. La première, qu'il vienne, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, qu'il vienne avec la façon dont Allah Ta'ala l'a créé. Comme Jibril, comme vous savez, il a 600 ailes. Des fois, il vient comme ça au prophète alayhi salam. Mais il n'est venu comme ça, ou bien le prophète nous l'a vu comme ça, dans sa vraie créature, ou la création, seulement deux fois. Seulement deux fois dans sa vie. La deuxième façon avec laquelle vient Jibril alayhi salam, c'est que le prophète, sallallahu alayhi salam, il est nam. Ensuite, il commence à entendre quoi? Il commence à entendre comme, le bourdonnement des abeilles. Et dans un hadith, il dit aussi comme le tintement d'une cloche. Tain, 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 tain. Ou bien zzz, comme ça, il commence à entendre. Naam. Et naam, ça lui fait vraiment mal. Naam. Déjà, Aïcha disait que vraiment, yani, quand Djibril lui venait de cette façon, que vraiment, vraiment, yani, ça lui faisait mal. Et elle a dit que quand il faisait vraiment très, très froid, la glace, la neige, naam, le prophète Aslam suait. Suait, puis il devenait aussi très lourd, lourd. Naam. Comme une fois, il était comme ça et il avait sa jambe sur la cuisse d'un sahabi et Djibril lui est venu de cette façon. Ensuite, yani le sahabi a dit que ma cuisse ou ma jambe allait se casser. Alors, se casser. Le prophète Aslam était yani, dans cette situation, il devient très lourd, vraiment lourd. Naam. Tellement c'est quoi? Rappelez-vous le verset. Comme a dit Allah Ta'ala. On va te révéler quelque chose de lourd, une parole lourde. Le Coran c'est lourd, c'est pas la parole d'une personne. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De faire vibrer, yani, le faire écrouler une montagne. Naam. Et la troisième façon dont vient Jibril alayhi salam, qu'il vienne sous forme humaine. Sous forme humaine. Exactement comme il est venu dans notre hadith ici, le hadith numéro 60, où le prophète Hassan était dans la mosquée et quelqu'un est venu avec les cheveux très noirs, les habits très blancs, hadith très connu. D'ailleurs, au point que les sahabas ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, subhanallah, on n'a jamais vu cette personne. Ensuite, le prophète Hassan, il leur a dit, c'est Djibril. Donc, des fois, il vient. Ça y est. On va ajouter autre chose, inshallah ta'ala. Taïb. On va parler maintenant de certaines choses que les messagers, c'est pour eux une spécificité. C'est-à-dire seulement eux, ils ont les choses-là qu'on va citer. Aucune personne ne peut avoir cette chose. Avant cela, je voudrais dire que la prophétie, le fait de devenir prophète, ce n'est pas quelque chose yani, qu'on peut acquérir. Naam. C'est-à-dire, tu peux adorer Allah jour et nuit et jeûner jour et nuit, tu n'auras jamais messager au prophète. Tes parents là, peuvent te faire des doigts toute la nuit, jamais tu seras prophète. Donc la prophétie vient par un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te choisit et décide de cette personne qu'elle devienne ou qu'elle soit un messager. C'est-à-dire, premièrement. Maintenant, les spécificités. Quand les messagers, la première, c'est quoi? C'est la révélation. Aucune personne dans le monde ne peut avoir une révélation, si ce n'est peut-être une révélation satanique, du shaitan. Non, le shaitan dit à la personne des choses, et l'autre croit que c'est les anges qui lui ont dit ça ou là, et que Allah Ta'ala a fait de lui un messager ou là. Non. Sinon, c'est impossible. D'ailleurs, c'est cité dans Sourate Al-Kahf 110, le prophète Hassan a dit, c'est-à-dire dans le Coran, Qul innama ana basharun mithlukum. Je suis un être humain comme vous. Mais il a dit Yuha ilayya. Dit, je suis en fait un être humain comme vous. Mais qu'est-ce que j'ai de plus? Il m'a été révélé. Il m'a été révélé que votre Dieu est Dieu unique. C'est-à-dire que le prophète, c'est un être humain comme nous, mais c'est quoi a été révélé. Et nous, jamais il nous a été révélé, ni il nous sera révélé. C'est impossible. La deuxième des choses, quand la spécificité des prophètes, c'est quoi? C'est l'infaillibilité. L'infaillibilité. Ils sont infaillibles dans la charia. C'est impossible qu'ils se trompent. On va parler de ça en détail dans quelques instants, inshallah ta'ala. Troisième spécificité. Les prophètes, les messagers, bien sûr. Les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont aussi? Quand ils s'endorment, yeux. Vous allez dire, pourquoi on s'endort avec quoi? Je dis, non, nous, quand on s'endort, nos yeux dorment, sont enfermés, et nos cœurs dorment. Naam. Le cœur doit aussi dormir. C'est obligé. Mais eux, non. Ils s'endorment seulement avec les yeux. Le cœur est toujours vivant, relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais il y a cette interruption. Dans quoi? Dans la liaison entre yani le cœur d'un messager et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela dit, il a dit, je passe la nuit chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit comme ça. Habite. Pas chez lui, c'est-à-dire dans cette au-dessus du trône, mais dans le sens de, il a terminé le hadith, il a dit, yut'imuni wa il me donne à manger, il me donne à boire. Je passe la nuit chez lui. Beaucoup de savants ont dit, ça veut dire que toujours en relation avec lui. Naam, le cœur ne s'arrête pas. S'arrête pas d'être nourri par la lumière qu'Allah Ta'ala lui envoie, la science, etc. La guider. Naam. Donc, le prophète a dit dans un hadith authentique, d'après Anas, il a dit, il a dit, le messager ou le prophète, son œil dort, pas son cœur, pas son cœur. Et dans un hadith authentique, celui-là que je viens de citer, se trouve dans Sahih al-Jami', 5,75. Et dans celui-là que je vais citer, il a dit, Inna ma'ashil anbiya, nahnu, nous les messagers, tanamu ayununa, nos yeux dorment, wala tanamu qulubuna, et nos cœurs ne dorment pas. Et nos cœurs ne dorment pas. Naam. Hadith authentique. Il a dit aussi, Inna ayni, ayni yatanaman, wa yeux dorment, et moi, je ne dors pas. Voir Sahih al-Jami' 3,55. 3,55. C'est la deuxième spécificité. La première spécificité, ils ont la révélation. La deuxième spécificité, ils dorment avec les yeux seulement, pas avec le cœur. Naam. Ils dorment avec les yeux seulement. Troisième spécificité, les prophètes, naam, avant de mourir, Allah Ta'ala les fait choisir. Avant de mourir, Allah Subhanahu wa Ta'ala les fait choisir. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, il a dit, Aïcha, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire, même min nabiyyin yamrad, il n'y a pas un prophète qui ne tombe malade, illa khuyyira binad, sans que Allah Ta'ala ne lui fasse choisir entre la dunya et l'au-delà. Il n'y a pas un messager qui ne tombe malade sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne le fasse choisir entre l'au-delà et la dunya. Quand on dit tombe malade, pas dans le sens de il a un rhume ou là, un petit mal à la tête. Tombe malade, la maladie de la mort. La maladie qui, yani d'elle, va suivre la mort. C'est pour ça que Al-Anha rapporte que lorsque le prophète Islam est tombé malade de la maladie de la mort, elle a dit, il a commencé à. C'est comme à devenir yani aphone. Hein? C'est comme lorsque on tousse, ou là on a une voix aphone. Il a dit, elle a dit, je l'ai entendu dire. J'ai entendu le prophète Hassan dire. D'ailleurs, c'était sa dernière phrase. Il a dit, Ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. C'est ça la dernière phrase du prophète Hassan. Qu'est-ce qu'il a dit? Avec ceux auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Yani, disons, à élever avec ceux qu'Allah Ta'ala a élevés, c'est-à-dire les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Comme ça, il a dit. Alors, Aïcha radhiyallahu ta'ala a dit, alors, quand il a dit cette phrase, j'ai su que Allah Ta'ala lui avait envoyé l'ange pour le faire choisir. Et Muhammad, est-ce que tu veux vivre encore? Tu veux qu'il te rallonge dans ta vie ou bien tu veux y aller rencontrer ton Seigneur? Alors le prophète a répondu que je voudrais être naam, avec ce qu'Allah Ta'ala a choisi. Il a dit les messagers, les véridiques, les martyrs et les vertueux. C'est-à-dire je voudrais être avec ceux-là. Et aussi ça me rappelle qu'il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari aussi. Hadith de Moussa alayhi salam. Notre prophète Moussa, quand Allah Ta'ala lui a envoyé, Allah Ta'ala lui a envoyé l'ange de la mort. L'ange de la mort pour prendre yani son âme. Kafi Moussa alayhi salam. Il a frappé l'ange de la mort yani sur son poing où il lui a, je ne sais pas si je vais trouver le mot, il lui a, bon, on ne dit pas d'un œil qu'il se casse. El Mohim, il lui a gâché son œil. Il lui a gâché son œil au point où yani, son œil s'est déplacé. Son œil s'est déplacé. Alors l'ange de la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu chez Allah subhanahu wa ta'ala. Entre parenthèses, c'est pas la peine de vous dire que ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. El Mohim, quand il est revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, ya Allah, vous m'avez envoyé vers quelqu'un qui n'aime pas la mort. Subhanahu wa ta'ala lui a réparé son oreille, son œil. Lui a réparé son œil, l'œil de l'ange de la mort. Il lui a dit, reviens et dis-lui de mettre sa main comme ça sur disons, la peau. Non, sur la peau d'un taureau. Et ensuite, de voir combien de poils viennent dans sa main. Ensuite, qu'il compte les poils, je lui donne autant qu'il a de poils, je lui rallonge dans la vie. Et quand il est revenu, et cet ange a dit ça à Moussa alayhi salam, Moussa lui a dit, alayhi salam lui a dit, et après, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit la mort. Je préfère maintenant. Donc ici, c'est une preuve aussi que, yani, Allah Ta'ala l'a fait choisir. Il lui a dit, choisis. Tu veux que je t'ajoute, yani, autant comme il y a de poils, ou bien tu veux mourir? Il a dit, je préfère la mort, puisque après tout cela, je dois mourir, donc il vaut mieux maintenant. Ce hadith que j'ai cité dans le Bukhari, le hadith de Moussa alayhi salam qui a frappé l'ange de la mort, certains les étonnent. Pire encore, certains démentent. Ils disent, c'est pas vrai. C'est pas un hadith authentique. C'est pour cela, comme les chiites, pour cela que ils critiquent, par exemple, Sahih al-Bukhari. Ils disent, Sahih al-Bukhari, vous dites Sahih al-Bukhari, Sahih ça veut dire c'est tout juste. Hein? Vous dites Sahih al-Bukhari, vous l'appelez un Sahih. C'est pas vrai, c'est pas un Sahih. Pourquoi c'est pas un Sahih? Il contient du faux. Ah bon? Donnez-nous quelque chose de faux. Il dit justement, on va vous donner quelque chose de faux. Allez lire. Il va te dire, va lire dans Sahih al-Bukhari, tu vas trouver qu'il y a un hadith que Moussa a frappé l'ange de la mort. Ils disent vraiment ça fait rire. Yani quelqu'un qui peut frapper un ange de la mort et lui gâcher son œil. Et yani ils disent, il n'y a pas de plus risible que cela. Vous ne savez pas que. Et vous savez, ils ne savent pas. Car ce sont, comme j'ai dit une fois, yani les plus ignorants des musulmans. S'ils sont musulmans, ce sont les plus ignorants. Ils savent pas que quoi? Ils savent pas que l'ange de la mort n'est pas venu sous forme d'ange, mais qu'il est venu sous forme d'être humain. Et quand toi tu es dans ta maison assis, tu tournes comme ça à droite ou à gauche, tu trouves quelqu'un assis devant toi. Tu sais pas que c'est l'ange de la mort. Tu n'as pas le droit de le frapper. En islam, que dit le hadith du prophète? Il dit, si jamais il y a quelqu'un qui est en train de voir par le trou de la serrure. Il est dehors, toi tu es dans ta chambre. Il a vu, il est en train de voir par le trou de la serrure. Il a dit, si tu prends une, comment ça s'appelle, Ibra, une aiguille. Si tu prends une aiguille, et tu la lui fais rentrer dans son œil, à travers bien sûr le trou de la serrure, il a dit, il n'y a pas quoi. Il n'y a pas ce qu'on appelle, tu lui payes son œil. Si tu lui crèves son œil, ensuite il va chez le juge, en islam. Il va chez le juge, il va dire, voilà, il m'a crevé mon œil. Normalement, c'est combien crever un œil? Deux yeux. Deux yeux, c'est 100 chameaux. Un œil, c'est 50 chameaux. L'équivalent d'un chameau. Si quelqu'un te gâche un œil, exprès, le fait exprès, te gâche un œil, il doit payer 50 chameaux. L'islam, ici le juge doit lui dire non. Il t'a trouvé, il t'a pris en train de voir, en train de voir de par le trou de la serrure. Il y a un hadith qui dit que ton œil ne vaut rien si tu fais une chose pareille. Donc s'il est permis de trouer, de crever l'œil de quelqu'un qui nous voit de la serrure. Qu'en est-il? Quelqu'un qui rentre dans ma maison et je le trouve assis devant moi. Moussa alayhi salam n'a pas accepté ça, il savait pas que c'était un ange. Il l'a frappé. C'est en ce sens que Moussa alayhi salam l'a frappé. Mais il n'est pas venu sous forme d'ange. C'est comme Osmo, Ibrahim alayhi salam. Les anges ne sont-ils pas venus chez lui sous forme d'être humain? Et qui sont assis, se sont assis, il a cru que c'était des invités, il a couru, il a fait le méchoui, ce qu'on appelle un méchoui. Naam, il leur a fait rôtir un mouton, s'est assis, mashallah, manger. Il a dit, Fadlo, subhanallah, ala ta'kulun, mangez, subhanallah, l'azim, spécialement pour vous. Ils n'ont pas voulu manger. Un ange ne mange pas. Un ange ne mange pas, ni ne boit, ni se marie. Ensuite, il a médité un peu, il a compris. Il a dit donc, ce sont des anges. Donc les anges qu'on voyait, ils peuvent venir sous forme humaine. Ensuite, Moussa alayhi salam était connu que c'est quelqu'un qui vraiment, yani, ne ménageait pas dans le dîn, ne ménageait pas dans le dîn. C'était quelqu'un qui, yani, vite, yani, répondait. C'est pour ça que, yani, quand il a vu cet ange-là qui était sous forme humaine, vite, il l'a frappé. Comme, yani, une fois de colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Naam, il s'est cité dans le Coran. Fawakazahu Moussa faqad alayh, un enfant d'Israël. Il l'a tué. Ensuite, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Il est connu aussi que une fois, il est allé nager et il a déposé des vêtements sur un rocher, un petit caillou, et le caillou, le rocher s'est enfui avec ses vêtements. Il l'a rattrapé, il l'a frappé avec des coups de bâton. Avec des coups de bâton. Et c'est connu que une fois, il a pris son frère Haroun par la barbe. Il a commencé à, il l'a fait tomber par terre, il le tirait par la barbe. Par la barbe. Donc Moussa alayhi salam était connu que, il ménageait pas, non, il ménageait pas, yani, quand il voit que quelque chose, yani, n'est pas comme il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit. Le mohim. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on disait ici? C'était la deuxième des choses, la quatrième des choses. Et la cinquième des choses, c'est quoi? C'est que un messager ou un prophète ne doit être enterré que là où il meurt. Ne doit être enterré que là où il meurt. Il y a un hadith sahih du prophète Sarasam qui dit Lam yuqbar nabiyun illa haythu yamut. Lam yuqbar nabiyun illa haythu yamut. Voir Sahih al-Jami' 546. Il dit il y a aucun prophète qui n'est enterré que dans l'endroit où il meurt. Il n'y a aucun prophète qui n'est enterré que dans l'endroit où il meurt. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort où? Dans la pièce de Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Il a été dans la pièce de Aïcha. Et la pièce, bien sûr, autrefois, n'était pas dans la mosquée. Mais, yani, quand on sort de la mosquée, elle est collée à la mosquée. Mais elle a une porte qui donne vers la rue, pas vers la mosquée. Et ensuite, quand Abdel Malik, quand il est venu, c'est lui qui a fait cette faute de quoi? De faire entrer les chambres, les maisons des épouses du professeur dans la mosquée. Il a cru qu'il a fait quelque chose de bien, mais ce n'était pas une bonne chose. Et la dernière des choses, la spécificité des messagers, la dernière des choses, c'est quoi? C'est que quand ils meurent, jamais la terre n'a le droit de manger leur corps. Nous tous, quand on meurt, qu'est-ce qui va se passer? La terre, quand on dit la terre, avec les vers qu'elle a, les vers de terre, et tout ce qu'il y a aussi comme insectes, l'âme, vont manger le corps jusqu'à ce qu'il ne reste rien, sauf une chose qui est invisible. Est invisible. De cette chose, Allah Ta'ala va nous ressusciter. De cette chose qui se trouve dans la colonne vertébrale tout à fait en bas. C'est cette chose-là que les insectes ne peuvent pas manger, ni les vers, ni que Allah Ta'ala va nous faire ressusciter une dernière fois. Ça m'a dit dans un hadith sahih, il a dit « Inna Allah harram ala l'ard an ta'kula ajsad al-anbiya » Allah Subhanahu wa Ta'ala a interdit à la terre qu'elle mange le corps, les corps des quoi? Les corps des prophètes. Hadith, yani رواه أبو داود نسأل صحة ابن خزيمة انظر فتح الباري 6488 c'est la sixième spécificité et enfin la septième spécificité que les messagers sont vivants dans leur tombe le prophète Hassan a dit الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون voire 414 il a dit les prophètes sont vivants dans leur tombe en train de prier. Et dans Sahih Muslim, lorsque le prophète Aslam est allé pour faire l'ascension, il a dit j'étais avec certains messagers, avec un groupe de messagers, il a dit un groupe de prophètes, quand j'ai vu Moussa alayhi salam en train de prier. Ensuite, quand j'ai vu Isa alayhi salam en train de prier. Ensuite, quand j'ai vu Ibrahim alayhi salam en train de prier. Donc, ce sont des morts, mais il les a vus en train de prier. D'ailleurs, il y a même un hadith authentique que Cheikh Al-Albani a authentifié, que même les croyants, prient dans leur tombe. Si on va dire que ce hadith est authentique, dans ce cas, le fait que les messagers prient ne devient plus une spécificité. Sinon, toutes les autres sont des spécificités. On va s'arrêter ici. Il y a aussi, bien sûr, d'autres choses à dire dans les messagers, mais on les laisse, inshallah ta'ala, pour le prochain cours. Subhanak lahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Muslim, inshallah ta'ala, les réponses, dis-le-moi, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Et cherche-nous, inshallah ta'ala, s'il y a quelque chose, on commence par les questions qui ont rapport avec le cours, inshallah ta'ala. Tafadhal.
Donc, les trois premières questions. Question d'une sœur. Salamu alaykoum, cher. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de son voyage nocturne, a pu voir un bout de notre Créateur? Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-il possible qu'Allah Ta'ala inspire une personne, un message à une personne sans que celui-ci soit un prophète ou un messager? Par exemple, ce message pourrait être en rapport avec une adoration à faire ou autre chose, mais pas une législation. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Est-ce que vous pouvez répéter le hadith de Cheikh Al-Albani, rapporté par Cheikh Al-Albani, à propos du croyant dans la tombe et le numéro du hadith que je vous avais demandé la fois passée, min fadlikoum. Le numéro du hadith concernant quelle chose de la dernière fois? Tfadal, Cheikh.
Tayyib, wa alaykoum salam, rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat salam ala ashraf al-mursalin. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider. Pour la première question, quand la personne dit, est-ce que notre prophète, al-Islam, lors de son voyage nocturne, a pu voir un bout de notre Créateur? Ensuite, elle a dit, astaghfirullah. Non, en fait, elle devait dire, est-ce que le prophète, al-Islam, lors de son voyage nocturne, a pu voir quelque chose de notre Créateur. Car dire chose, ça existe dans le hadith sahih. La shay'a aghyar min Allah. Le prophète a dit, il n'y a pas de chose plus jaloux ou de jalouse que Allah Ta'ala. C'est mieux que de dire le mot bou. Al-Muhim. La réponse est non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie. Aucun être vivant n'a vu quelque chose de quoi? De notre Seigneur Azza wa Jal. À part où il est cité dans ce hadith, dans un hadith authentique, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait un geste à la montagne. Lorsque, avant de s'écrouler, Allah ta'ala lui a fait un geste. Ici, le prophète il a dit que Allah ta'ala ne lui a montré que une petite chose de lui. Et il a fait comme ça, il a posé son pouce sur la dernière phalange de l'auriculaire. Pour la deuxième question, inshallah, est-ce que Allah ta'ala peut inspirer à une personne un message à une personne, sans que celui-ci ne soit un prophète ou un messager? Par exemple, ce message pourrait être en rapport avec une adoration à faire ou autre chose, mais ça, pas une législation. Allah ta'ala peut inspirer une personne qui est pieuse, par exemple. Peut inspirer une personne qui est pieuse, par exemple, pour qu'elle fasse le bien, pour qu'elle se lève et fasse la prière de la nuit, pour qu'elle fasse la zakat, pour. Car si Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, on l'a cité dans le verset passé, si c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala, aucun de vous ne se serait purifié. Purifié dans le sens où, yani, tu purifies ton cœur pour qu'il soit inspiré, pour qu'il t'aide à faire des choses. Tout le bien qu'on fait, c'est par Allah ta'ala t'inspire et t'aide. Sinon, s'il te laisse à toi-même, jamais tu ne feras un bien. Tu passeras ta vie à dormir, à faire le mal. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à une personne, il l'inspire comme ça dans son cœur et il lui fait aller pour qu'elle sente quelque chose, qu'elle veut faire cette chose, qu'elle veut faire cette chose et il l'aide. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut inspirer, il inspire aussi les élus et les pieux, etc. Il leur inspire, yani, des fois des phrases. De dire yani, la bonne phrase au moment voulu. Au moment voulu. Et il y a même un hadith dans ce sens qu'il y a un ange que c'est des fois lui qui parle, yani, qui yani, c'est comme si c'était lui qui a parlé. C'est pas toi qui as parlé, mais comme si c'est lui qui a parlé. Il y a un hadith authentique en ce sens. Et, attendez, je pense à une chose. Des fois, je veux raconter des choses et des fois, je ne raconte pas des choses personnelles comme ça. Peut-être ça rentre dans des choses. Il vaut mieux, inshallah ta'ala, que je sorte. El-Mouhim, donc, c'est inshallah ta'ala, comme ça, la réponse à cette question. Sauf que, il lui inspire pas, bien sûr, de légiférer. C'est pas possible. Non, il lui inspire de faire un bien, de dire quelque chose, et comme ça, de trouver la solution vite. Mais pas la législation, bien sûr. Pour la troisième question, inshallah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ici? Salam alaykoum, est-ce que vous pouvez répéter le hadith de Cheikh Al-Albani à propos du croyant dans la tombe? Le croyant dans la tombe. Est-ce que la personne parle du hadith où le prophète a.s. a dit que les prophètes étaient vivants dans leur tombe en train de prier? Est-ce qu'il parle de ce hadith? Les prophètes sont vivants dans leur tombe en train de prier. Est-ce qu'il pense, il parle de ce hadith? Je ne sais pas exactement de quel hadith il parle. Non. Donc, si c'est celui-là, qu'est-ce qu'il veut? C'est ça le hadith. Il a dit que non, les prophètes étaient vivants dans leur tombe en train de prier. Et ce hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Si vous voulez, je vous donne le numéro. Une seconde. Une seconde, je vous donne le numéro. Donc ce hadith, des messages des prophètes en train de prier dans leur tombe, faut voir Sahih al-Jami' de Cheikh Al-Albani, tome 2, page 214. Tome 2, page 214. Je revérifie. Page, tome 2, page. Non, alhamdoulilah, j'ai revérifié, alhamdoulilah. Je me suis trompé, une seconde. Tome 2, page 414. Tome 2, page 414 et non pas 214. Ensuite, cette personne qui pose la question maintenant sur ce hadith, m'a téléphoné, ça fait 2 ou 3 jours, elle a dit que elle m'a entendu une fois. Elle m'a entendu une fois dans un hadith. J'avais cité un hadith où j'ai dit que certaines personnes, Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de leurs péchés, il va les transformer en bonnes œuvres. Allah Ta'ala, Yawm al-Qiyamah, certaines personnes va leur transformer leurs péchés en bonnes œuvres. Alhamdoulilah, ça c'est une grande ni'ma. Non, c'est une grande ni'ma. Pourquoi? Imaginez quelqu'un de reconverti. Imaginez quelqu'un qui s'est reconverti il y a 2 jours et il est mort. Ou là, ça fait une demi-heure qu'il s'est reconverti, il est mort. Qu'est-ce qu'il a préparé? Il s'est pas préparé celui-là, ça. Alhamdoulilah, l'iman, il a sauvé sa peau. Ça veut dire il va rentrer au paradis, mais il n'y a rien que, yani, il va pas aller aussi en enfer auparavant. Ça, il n'a rien préparé, il n'a rien avancé comme œuvre. Donc Allah Ta'ala, de par sa rahma, naam, ceux-là, Allah Ta'ala, tous leurs péchés, il va les transformer en bonnes œuvres. Sinon, yani, yom qiyama, un reconverti qui vient juste, par exemple, de faire la tawbah, là, il est plein de péchés. Ça fait 50 ans, là, 40 ans que, jour et nuit, il se remplissait de péchés. Quand il va voir les pieux, yom qiyama, il est martyré, il est vertueux, yani, il va dire, subhanallah, moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Donc, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer leurs péchés en bonnes œuvres. Pour les faire, masha'Allah, yani, avancer et les faire peut-être égaler aux musulmans. Al-Muhim, là, j'ai dit que le prophète, alayhi sallam, a dit, au point que ces gens-là, quand ils voient que Allah ta'ala a transformé, ou là, comment leur transforme leurs péchés en bonnes œuvres, ils souhaiteront à s'ils avaient commis beaucoup de péchés. Ils souhaiteront, ah, s'ils avaient commis beaucoup de péchés, comme ça, yani, ils seraient tous maintenant transformés en hasanat. Ce frère-là, quand il a entendu ce hadith, et il l'a dit à certains frères, ils ont dit, subhanallah, on n'a jamais entendu ça. Quand on dit, j'ai jamais entendu ça, ou bien, yani, ça veut dire, c'est masha'Allah, oh, masha'Allah. Donc, moi, yani, j'ai jamais entendu ça, mais c'est masha'Allah, ça me fait plaisir. Ou bien, donc ça peut être une éloge, comme ça peut être une critique. Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? On n'a jamais entendu ça. Oh. Il invente celui-là. Un. Donc le frère m'a demandé, inshallah ta'ala, que je lui donne où se trouve le hadith. Je lui dis donc ce hadith se trouve dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, numéro 5359. 59. Sahih al-Jami' numéro 5359. Et Silsila Sahiha. Et l'autre livre, Silsila Sahiha, 2177. 2177. Sinon, il y a d'autres livres de Sheikh al-Albani qui ont cité ce hadith. Je me suis suffi à ces deux-là. Je me suis suffi à ces deux-là. Inch'Allah ta'ala, qui m'a posé la loi. J'ai lu même, le frère n'a pas le hadith en arabe. Au moins qu'il me le redonne en français. Mais là où il l'a lu, c'est-à-dire dans Bukhari, donc comme ça, s'il n'a pas le hadith, il sait pas où il se trouve, au moins qu'il me le redonne en français, seulement avec les termes. Seulement avec les termes. Mouhim, il y a autre chose, il y a autre chose. Ça fait 2 ou 3 cours. On revient marche arrière, 2 ou 3 cours. J'avais parlé, quand j'ai parlé du vol et de la charia en islam, et j'avais dit que, yani, si vraiment on coupait la main à celui qui volait, alors plus une personne ne volerait. Et j'avais dit que pour couper la main, il y avait des conditions, etc. De moyen. Et j'avais dit, regardez, pendant toute l'époque des califes bien guidés qui étaient 30 ans, on n'a coupé que 5 mains, 5 ou 6. J'ai dit comme ça, 5, ou bien j'ai dit 6. Un moyen. C'est pas ça l'important. Ensuite, moi, de ma tête, j'ai fait comme ça un calcul. Et comme je suis très faible en mathématiques, c'est la matière dont j'ai toujours eu un ou deux. J'ai jamais eu plus de deux ou trois. El Mouhim, non. Donc moi, devant vous, j'ai fait un calcul. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, puisque 30 ans, ils n'ont coupé que 5 mains. Donc on va diviser 30 par 5. Ça donne 6 mains. 6 mains par an. Donc toute une année, on ne coupe que 6 mains. Ensuite, quelqu'un qui m'a envoyé après, bien sûr, il m'a dit, mais c'est faux dans le calcul. Car si on dit 6 mains par an, donc en 30 ans, ça donne plus. Chaque année, 6, 6, 6, 6. En 30 ans, ça donne 180 mains qui sont coupées. Alors que nous, on a dit seulement 5 mains ou bien 6 ont été coupées en 30 ans. Donc c'est pas on divise 30 par 5, mais on divise 5 par 30. Ce qui va donner donc à peu près, ça va donner donc 6 ans pour faire une main. Voilà, barakallahu fik. Une main tous les 6 ans, ou bien une main tous les 5 ans. Si on dit 5 mains ont été coupées, ça veut dire une main tous les 5 ans, ou bien une main tous les 6 ans. Alhamdulillah, donc le musulman lui aussi a trouvé donc la réponse. Tayeb, on passe inchallah ta'ala aux autres questions. Tfadhal.
Non, cher, donc je vous fais parvenir les prochaines questions. Et le frère concernant les matelas moelleux, donc il a posté le hadith, je vous le mets sur le salon, Inch'Allah. Et je vous fais parvenir donc les trois prochaines questions, Inch'Allah. Donc question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant toute chose, je voulais vous dire Barakallahu fikoum pour le travail que vous faites dans le salon. Je demande à Allah de nous abriter sous son ombre le jour où il n'y aura nulle ombre que la sienne. Car je vous aime, fillah, ainsi que les admins et mes frères et sœurs présents sur la room. Et j'attends vos doros avec impatience, c'est une ni'ma, walhamdulillah, surtout pour nous les femmes qui avons personne à qui poser des questions et ma question concerne le cours. Concernant le hadith avec Moussa, alayhi salam, et l'ange de la mort. J'ai entendu que c'est à partir de cet incident qu'il a demandé à Allah qu'on ne puisse plus le voir. Est-ce vrai? Il y a l'histoire avec Suleyman, alayhi salam, où son ministre l'a vu et a demandé à quitter le pays. Et si une personne qui me dit que le hadith avec Moussa et l'ange de la mort n'est pas authentique, parce que ça ne peut pas entrer dans la logique, cette personne fait-elle forcément partie d'une secte? Exemple, Ikhwan Muslimin. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Lorsque vous dites qu'Allah a parlé au prophète derrière un voile, est-ce que cela veut dire qu'ils ont bien entendu sa voix? Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum, cher. Puisse Allah vous récompenser pour le temps que vous nous accordez. Vous avez dit dans le cours que Moussa alayhi salam était très réactif. Je voudrais savoir s'il existe un passage dans le Coran qui disait qu'il avait jeté les tables, qu'il avait jeté les tablettes sous l'emprise de la colère après avoir vu que son peuple adorait le veau d'or. Je voudrais avoir des précisions, car étant converti, j'ai peur de confondre avec certains passages de la Bible. Barakallahu fikoum. Tfadha cher.
Donc je réponds inchallah ta'ala pour la première question. Avant cela, je dis, puisse Allah subhanahu wa ta'ala aimer chaque personne qui nous a aimé, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'attends vos doros, alhamdoulilah, concernant le hadith de Moussa alayhi salam, l'ange de la mort. J'ai entendu que c'est à partir de cet incident que Allah ta'ala a demandé que, c'est-à-dire l'ange de la mort a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne le voit plus. Non, qu'il a demandé là qu'on ne le voit plus. Je dis donc, musulman, d'accord, attends une seconde. Je dis donc, cette chose n'est pas vraie. Cette chose n'est pas vraie. Que quoi? Que l'ange de la mort, à partir de l'incident avec Moussa, a demandé à Allah Ta'ala de le rendre invisible. Donc je confirme que cette chose n'est pas vraie. Et que, yani, de tout temps, il a été invisible. Quant à l'histoire de Suleyman avec son ministre, où il a vu l'ange de la mort et lui a demandé de quitter le pays, ce n'est pas une histoire authentique. Ce n'est pas une histoire authentique. Non, c'est une histoire que raconte Keshk rahimahullah et certains comme ça, je ne sais pas d'où ils l' ont ramené, peut-être des livres de Benou Israël, Allahu a'lam. Al-Muhim. Non. Enfin, si une personne dit qu'elle croit pas en ce hadith, qu'elle croit pas en ce hadith et que c'est pas logique, etc., est-ce qu'elle fait forcément partie d'une secte? Non, non, elle fait pas forcément partie d'une secte, mais quoi? Mais ou bien elle est vraiment ignorante, non, elle est ignorante. La preuve, elle fait devancer la raison sur le texte. Et deuxièmement, ou bien elle n'a pas encore compris c'est quoi la salafia. Être dans le minhaj. Être salafi, ça veut dire quand Allah Ta'ala dit une chose, ou que le messager dit une chose, et que c'est une chose authentique, je dis, sami'na wa ta'ana. J'ai entendu, j'ai cru. J'ai entendu, j'ai cru et j'applique. Même si moi, je n'ai pas compris. Comment? Le prophète, alayhi salam, moi qui prétends le suivre à la lettre, me raconte une chose. Et cette chose se trouve dans Sahih al-Bukhari, que Moussa alayhi salam a frappé l'ange de la mort et lui a crevé l'œil. Ça ne peut pas être interprété. Car il est monté chez Allah et il a demandé que Allah Ta'ala lui répare l'œil. Il lui a réparé. Ensuite, je dis, non, c'est peut-être pas l'œil, c'est peut-être pas l'ange de la mort, c'est ce, cela. Ça veut dire tout simplement que je n'ai pas encore la salafia dans le cœur. Je suis nouveau, bien. Je n'ai pas voulu dire qu'il fait forcément partie d'une secte, car il est possible qu'il soit salafi, mais il est yani, dans les débuts. Il n'a pas encore, yani, son cœur n'a pas encore bu la salafia. Non, il est dans ses débuts, il a un peu de doute, il aime la salafia, il aime le minhaj, il aime ceci, mais yani, il n'est pas encore vraiment sur les rails. Il n'est pas encore vraiment sur les rails. Mais c'est impossible que quelqu'un de salafi, de connu, de talbin dans la salafia, ceci, qui dise je ne peux pas croire en un hadith pareil. C'est pas possible. Taïb, pour la deuxième question, inshallah ta'ala. Lorsque vous dites qu'Allah Ta'ala a parlé au prophète derrière un voile, est-ce que ça veut dire qu'ils ont bien entendu sa voix? Naam, je confirme qu'ils ont entendu sa voix, la voix d'Allah Ta'ala. C'est pour ça que j'ai dit, comme vous, vous entendez ma voix. Comme vous, est-ce que vous maintenant, quand vous êtes en train d'entendre ma voix, est-ce que vous doutez? Dites non, peut-être c'est pas une voix, c'est quoi ça? Vous entendez une voix. La même chose, Allah Ta'ala a parlé et les autres, les messagers ont entendu sa voix, la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, avec des lettres. Comme moi je parle maintenant avec des lettres. A, B, C, D, des lettres, ya. Naam. Le Coran, c'est quoi? La parole d'Allah, c'est des lettres. Huruf. Alif, Lam, Mim, Kaf, Ya, Ha, Ain, Sad. Et comme ça. Donc quand je dis que Allah Ta'ala a parlé avec une voix, comme moi je parle avec la voix, la ressemblance n'est pas entre moi et Allah, mais dans le fait que moi, je parle, Allah parle et moi je parle. Mais chacun, bien sûr, rien ne lui ressemble à subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble, comme vous savez. Mais c'est pour vous prouver qu'il a parlé vraiment avec sa voix. Naam. Taïb, troisième des choses, ça vous comprenez, hein? Vous avez dans le cours que Moussa alayhi salam était très réactif. Je voudrais savoir s'il existe un passage dans le Coran qui disait qu'il avait jeté tablette sous l'emprise de la colère après avoir vu son peuple adorer le veau d'or. Je voudrais des précisions car étant converti, j'ai peur de comprendre certains passages. Naam, il y a ça dans le Coran. Tout à l'heure, quand je parlais de Moussa alayhi salam et que j'ai dit qu'il était très réactif, j'ai donné quelques exemples. Comme quoi il a tiré son frère de la barbe. Il a tué quelqu'un de Ben Israël. Naam, il l'a poussé, il est tombé mort. Et que, yani, il a frappé le caillou, qu'il a frappé l'ange de la mort, et j'avais oublié aussi de dire que, en s'énervant, il a jeté les tablettes préservées par terre. C'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Sourate Al-A'raf, verset 150. Vous allez lire en arabe. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit: vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la lui tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, etc., etc. La fin du verset. Donc, il a jeté les tablettes. Les tablettes, qu'est-ce qu'elles contenaient? La parole d'Allah. C'est comme si quelqu'un maintenant va jeter le Coran. Ce verset, c'est une preuve, enfin, pas une preuve seulement. Ça peut être une gifle, une grande gifle, qu'on peut donner à un tekfiri. On peut donner à un tekfiri qui dit il n'y a pas d'excuse dans le coffre. Il n'y a pas d'excuse dans le coffre. On ne peut pas se tromper dans le coffre. Le coffre n'a pas d'excuse. On lui dit, dis-nous, dis-nous, si quelqu'un jette le Coran par terre, qu'est-ce que tu dis de lui? Il va dire, il est kafir. On lui dit, il n'y a pas d'excuse dans tous les cas. Il dit, dans tous les cas, il est kafir. On lui dit, donc, Moussa a été kafir. Moussa, il a jeté l'équivalent du Coran. Il a jeté la parole d'Allah par terre. Est-ce qu'il est kafir, Moussa? S'il dit, Moussa est kafir, on lui dit, il n'y a pas plus kafir que toi. S'il dit, il n'est pas kafir, on lui dit, comment? Il jette le Coran, il n'est pas kafir. Il jette les tablettes, il n'est pas kafir. Mais pourquoi il n'est pas kafir? Il a jeté sous l'emprise de la colère. La colère, la grande colère, qui a fait de sorte qu'il ne savait pas yani, ce qu'il était en train de faire. C'est pour ça que les savants disent, dans la grande colère, il n'y a pas de divorce. Quelqu'un qui est vraiment en colère, il ne sait pas ce qu'il dit. Ensuite, il a dit, tu es divorcé à sa femme. Elle n'est pas divorcée. Car le prophète, alayhi salam, m'a dit, « La talaq wa la itaq fi irlaq. » Il a dit, il n'y a pas de talaq, divorce. Et il n'y a pas d'affranchissement. Tu dis à ton valet ou là, je t'ai affranchi. Dans quoi? Dans la colère. Dans la colère, il n'y a rien. Il faudrait être dans la raison pour qu'il y ait divorce et pour qu'il y ait affranchissement. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Donnez-nous, inshallah ta'ala, d'autres questions.
Non, mes chers, concernant la question sur les matelas, donc le frère nous a donné un hadith en français. J'ai cherché rapidement. J'ai trouvé que dans le Bukhari, c'était 5390. Allahu alam. Et une personne, donc une frère ou une sœur en PV. Donc elle a un doute, mais elle dit qu'une fois, elle vous avait posé une question semblable et vous lui avez donné une réponse en lui parlant des matelas qu'on mettait sur les montures. Donc pour vous aider, elle demande, est-ce que c'est pas ça la réponse? Est-ce que ça ne concerne pas les matelas rouges sur les montures? Les matelas moelleux, Afren, sur les montures. Tfadashir.
Avant cela, juste une chose, je continue avec Moussa alayhi salam. Lorsque Moussa est allé pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah ta'ala lui a appris, lui a dit, regarde ce qui s'est passé dans ton absence. Bien sûr, il s'est mis en colère. Mais lorsqu'il est venu, il est revenu, et il a vu de ses yeux, voilà ce qu'il a fait. Il a tiré son frère par la barbe, il a jeté des tablettes, etc. Ici, dans ce contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, il a dit, Laysa al-khabaru kal mu'ayana. Laysa al-khabaru kal mu'ayana. Et il a raison, Allah. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, l'information n'est pas comme la vision. L'information n'est pas comme la vision. Toi, quand je t'informe, je te dis par exemple, on t'a. Par exemple, là, Inch'Allah, que ça ne se passe pas. Je te dis par exemple, on t'a volé ta maison. Tu vas t'énerver, hein? Subhanallah, on m'a volé. Non? Mais, quand tu vas. Je t'ai informé, c'est tout. Mais quand tu vas arriver à la maison, tu vas voir la porte défoncée. Enfin, les bijoux, enfin, y a plus enfin, ils sont plus là, les mégots par terre, les fenêtres cassées, etc. Non, ce sera la grande colère. Pourquoi? Il a dit, l'information, laysa al-khabar kan mu'ayna. L'information, non, n'équivaut pas à la vision. Hadith sahih. Moussa, quand Allah Ta'ala l'a informé, c'est même en colère, c'est tout. Mais quand il a vu avec ses yeux, non, le taureau là, le veau qu'ils adoraient, etc. Il a vu les gens en train de l'adorer, il n'a pas pu se retenir. Non, donc je reviens pour le hadith musulman. Est-ce que tu peux me donner le hadith du Bukhari que tu m'as donné, que tu viens de dire maintenant, son numéro? Et 5390. Tu as trouvé en français, hein, le Bukhari en français, toi, ou là tu l'as en arabe, le 5390? Dans le Bukhari en français ou là en arabe? En français. Tayyib, en français. Et pour la personne qui a dit que peut-être c'était sur les montures, yani le truc de sur lesquels on s'assoit sur les montures, je lui dis peut-être. Peut-être. Ça, je commence à me rappeler maintenant, mais je ne suis pas très sûr. Il faut que je revienne encore une fois sur le hadith, inshallah ta'ala. Une seconde, je vais le noter, inshallah, je vais noter le numéro, là. Je vais noter, inshallah ta'ala. Le temps que tu m'envoies, inshallah ta'ala, les autres questions, tfadda.
Alors, question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Vous dites que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Je sais que cela est possible pour Allah, mais pourtant Allah Ta'ala va les ressusciter. Donc ils devraient être morts. Et est-ce que cela voudrait dire que si à ce jour on déterre donc l'un des prophètes de leur tombe, on pourrait y voir leur corps? Y a-t-il des tombes de prophètes à ce jour? Barakallahu fikoum. Et qu'Allah vous récompense pour votre temps. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Je voulais savoir s'il était mentionné quelque part la façon dont les prophètes pouvaient reconnaître Jibril, alayhi salam, quand il apparaissait sous forme humaine. Allah yjazakum bikhair. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayyakum Allah. Je suis parti rendre visite à ma sœur chez elle. J'ai donc pris la route en voiture pendant environ 3 heures. Je me suis considéré en voyage pendant la route. J'ai prié dhuhr normalement chez moi avant de partir, car j'étais encore résidente. Ensuite, sur 1 heure d'autoroute, j'ai fait 2 rak'at pour Salat al-Asr. Je dors une nuit chez elle et demain, Inch'Allah, nous rentrons. Moi, je me suis considéré résidente pour un jour. Donc, j'ai fait la Salat normalement chez elle. Et demain, je compte raccourcir la Salat, mais juste sur la route. Du retour, Inch'Allah. Expliquez-moi si j'ai bien fait. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala, vous dites que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Je sais que cela est possible pour Allah. Mais pourtant, Allah Ta'ala va les ressusciter, donc ils devraient être morts. Est-ce que cela voudrait dire que si à ce jour on déterre une de leurs tombes, on pourrait y voir leur corps? Y a-t-il des tombes de prophètes à ce jour? Ça contient d'autres trois parties. Dans la première partie, vous dites que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Ça, c'est pas moi qui ai dit cela. Alors je transmets que le prophète alayhissalam a dit que les prophètes sont vivants dans leur tombe. Et pourtant Allah Ta'ala va les ressusciter, donc ils devraient être morts. Pourquoi? Pourquoi ils devraient être morts? Pourquoi ils ne peuvent pas être vivants et à la dernière minute, lorsque Allah Ta'ala veut les ressusciter, il les fait mourir? Ils sont morts. Mais même dans la tombe, yani, il les fait mourir, yani, une dernière fois. C'est-à-dire juste pour les ressusciter. Elle dit premièrement, ensuite quand on dit qu'ils sont vivants dans leur tombe, c'est pas une vie comme la nôtre. C'est pas une vie comme la nôtre. Une vie spéciale qu'on ne pourrait ni comprendre, vraiment comprendre. Mais Allah Ta'ala a donné cette particularité au prophète Aslam de les voir. De les voir comment? De les voir comme nous on voit quelqu'un. Il a reconnu celui-là, c'est Isa, c'est Jibril, c'est Afwan, c'est Adam, mais c'est Moussa et c'est comme ça. Donc, quand on dit ils sont vivants dans leur tombe en train de prier, il n'y a pas une preuve à 100% que y en est vivant avec son corps. On peut être vivant avec notre âme. Je sais ce qui se passe, je me lève, je me prie, etc. dans la tombe et je n'ai pas de corps. Ça aussi, c'est possible. Donc, je veux dire que la tombe est. L'au-delà, tout ce qu'il y a après la mort, c'est le monde de l'invisible. Juste on croit et on n'essaie pas d'aller très loin. On n'essaie pas d'aller très loin car pourquoi? Car on ne va pas trouver la réponse. On ne va pas trouver la réponse hein, car ce sont des choses qui rentrent dans l'invisible. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te demande de croire en l'invisible. Est-ce que ça voudrait que si à ce jour on déterre leur tombe, on pourrait voir leur corps? Ça, c'est vrai. Si jamais on déterre une tombe d'un messager, on va trouver quoi? On va trouver avec le corps. Avec le corps. Pourquoi? Car Allah Ta'ala a interdit à la terre, a interdit à la terre qu'elle mange le corps d'un messager. Qu'elle mange le corps d'un messager. Allah Subhanahu wa Ta'ala a interdit à la terre qu'elle mange le corps d'un messager. Si c'était possible, si c'était possible, et que quelqu'un, yani s'il y avait la permission d'Allah Ta'ala, que quelqu'un allait déterrer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait vu comme ça devant lui, comme s'il était vivant. D'ailleurs, dans Sahih al-Bukhari, que جابر بن عبد الله ان صحابي سي تو نعم جابر ou bien son fils, le fils de Jabir. Quand Jabir est mort, un grand sahabi, Jabir est mort, il est mort martyr. Martyr. 6 mois après, 6 mois après, je dis bien 6 mois, son fils a dit, moi, mon père, l'endroit où on l'a enterré, nam, ne me plaît pas. Il a été enterré devant quelqu'un qui, yani, je doute de lui. Il a dit, je voudrais lui faire changer de place. Quand il est allé le déterrer, il l'a fait sortir, il l'a dit, je l'ai trouvé exactement, yani, comme on l'a enterré, rien ne manquait de lui. Il y avait même les traces, yani, toujours vivantes, là où il a été blessé, etc. Il a dit que je crois, il a dit il manquait juste quelque chose. Il a dit dans son oreille ou son nez, le doute vient de moi, j'ai oublié. C'est pour ça que certains savants, on dit que même les martyrs, il n'y a pas un hadith authentique qui dit que Allah Ta'ala ne mange pas leur corps, mais il a dit, les savants disent que beaucoup de martyrs ont été trouvés avec leur corps après des années. Beaucoup de martyrs, après des années, ils ont été trouvés avec leur corps qui n'a pas bougé. Ils ont dit, subhanallah, si un martyr, Allah Ta'ala peut lui donner cette grâce, qu'en est-il un messager, qu'en est-il un prophète. Al-Mouy m'a dit pour la première question. La deuxième question, inshallah ta'ala, je voulais savoir, j'ai mentionné quelque part la façon dont les prophètes pouvaient reconnaître Jibril alayhi salam quand il apparaissait sous forme humaine. Non, la preuve que Jibril alayhi salam, quand il est venu ici au prophète alayhi salam dans la mosquée, il l'avait pas reconnu. C'est quand il est parti que yani, il a été inspiré que c'est Jibril. Ensuite là il a dit vous avez reconnu qui c'est celui-là, ils ont dit non, il a dit c'est Jibril qui est venu quoi vous apprendre votre religion. Car quand il vient sous forme d'un être humain, c'est encore difficile à reconnaître. S'il vient avec ses ailes, naam, khlas, yani, voilà quelque chose d'anormal, c'est un ange. Mais quand il vient en être humain, C'est difficile à le reconnaître, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala inspire. Il t'inspire, il te dit celui-là c'est Jibril, comme il le fait avec le messager, son messager alayhi salatu salam. Et pour la sœur qui a dit je suis parti rendre visite chez ma sœur, etc. Je dis, comment se fait-il que à la maison, en cours de route, elle a prié 2 rak'at, l'asr. Ensuite, à la maison, elle s'est considérée comme résidente. Et ensuite, en revenant, elle a raccourci la salat. Je dis, elle raccourcit même dans la maison. Dans la maison, elle n'est pas résidente. Je lui donne la preuve qu'elle n'est pas résidente. Je lui donne la preuve. Qu'elle aille à la mairie, là où elle habite sa sœur, et qu'elle demande la résidence. Elle leur dit, donnez-moi la résidence. Ils vont lui dire, non, vous n'êtes pas résidente ici. Vous êtes chez votre sœur en train de passer une nuit. Et en restant 15 jours, vous n'êtes pas résidente. En restant 6 mois chez elle, vous n'êtes pas résidente. Non. Donc, je dis à cette sœur, normalement, elle aurait raccourci en allant, en passant la nuit chez elle aussi, et en revenant. Mais, alhamdoulilah, c'est pas grave. Puisque si quelqu'un ne raccourcit pas, on prend avec l'avis qui dit qu'elle n'a pas fait de haram, inshallah ta'ala. Tfadlal pour l'autre question, inshallah.
Cher, concernant la même question sur la prière du voyageur, lorsqu'on est sur... Naam, cher, concernant la même question sur le voyageur, est-ce que lorsqu'on est dans son lieu de résidence, donc là où on habite, et qu'on a l'intention donc de faire un voyage, qu'on va entreprendre un voyage, avant de partir de chez soi, est-ce qu'on a le droit de raccourcir la prière en se considérant déjà comme voyageur?
Pour la réponse à cette question, je dis le raccourcissement de la salat ou le raccourci de la salat, quand est-ce qu'il commence? Il commence quand on sort de la ville. C'est interdit et ça se fait pas De quoi? De raccourcir à la maison et de sortir. Ça ne se fait pas. Il faudrait sortir de la ville pour pouvoir commencer à raccourcir. Autrefois, bien sûr, la ville était, comment dirais-je? Autrefois, la ville était. Il y avait une enceinte, une grande porte de la ville. Il y avait des arbres, hein, qui tournaient autour de la ville. On peut voir qu'on est sorti de la ville. Maintenant, c'est difficile. Imaginez Paris. Paris, c'est combien il est grand? Quelqu'un qui habite à l'extrémité et qui, yani, pour arriver à l'autre extrémité de Paris, il lui faut peut-être 1 heure ou peut-être plus. Non. Alors, comment qu'il fait pour savoir qu'il est sorti de sa ville? Il est sorti de sa ville quand il sort de quoi? De, je sais pas comment qu'on appelle ça chez vous, c'est pas le département. Peut-être c'est le département, hein, je sais pas comment on appelle ça chez vous. Regardez chez nous, par exemple. Il y a une plaque. Il y a une plaque qui te dit que, par exemple, Blida, yani, te souhaite bonne route. Femme, mais Blida te souhaite bon voyage et comme ça. Ça veut dire que tu es sorti de Blida. Ou des fois, il y a une plaque. Il y a une plaque, c'est écrit Blida. Donc toi, quand tu dépasses cette plaque, tu regardes derrière toi, c'est écrit Blida. C'est pour ceux qui veulent rentrer à Blida. Toi, tu viens de sortir de Blida. Donc je ne suis plus à Blida. Des fois, quand c'est une grande ville, comme j'ai dit, comme Paris ou là, c'est yani, quand tu sors de. Je sais pas comment c'est divisé. Je peux pas vous dire ça en français comment c'est divisé en localité ou là, je ne sais pas quoi. Donc, tu es sorti de. C'est pas quartier, hein, c'est pas quartier. Peut-être arrondissement, peut-être ça. Mais c'est pas quartier. Les personnes ayant saint bon, Jésus, pouvez-vous confirmer le hadith? Il parle bien du matelas. Allah Allah.
Cher, je vous envoie les questions suivantes. Donc écrivez-moi pour que vous puissiez vous repérer, cher. Écrivez-moi sur le PV. Tfadal, cher.
Ah, peut-être agglomération, Allah Alam. Pour le PV, donc, enfin, il faudrait que tu m'écrives, je crois, toi aussi. J'ai plus le PV où il y avait les questions. Sinon, j'ouvre mon PV.
C'est bon, cher, je vous les ai envoyés. Donc, question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Allah vous préserve, cher. La prière est-elle annulée si un enfant passe devant? Jazakumullah khairan. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Cheikh Hana, barakallahu fikoum, pour ce cours très profitable, Allahumma barak. Wafaqakum Allah, une sœur demande. Mon mari n'interdit pas le blâmable et n'ordonne pas le convenable. Il prie, mais il n'apprend pas sa religion et il commet des grands péchés. Nous allons bientôt aller dans sa famille, dans un pays du Maghreb, Inch'Allah. C'est la première fois que j'y vais. Dans sa famille, il y a beaucoup de shirk et de nombreux péchés, dont la mixité. Ma belle-mère prête même la maison familiale où l'on doit loger à ses propres. À ses proches, à Afouane, pour faire des mariages avec musique et mixité. Comment dois-je me comporter? Est-ce qu'il faut que j'interdise le blâme à mon mari et à sa famille, même si je risque qu'il soit en colère contre moi? Et que faire si mon mari veut m'obliger à commettre des péchés? Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'ai une question concernant la sourate Al-Kahf. Un innovateur de ma famille, qu'Allah le guide, m'a mis des wes-wes en me disant pourquoi construire sur des tombes, c'est haram, vu qu'Allah n'a pas réprouvé la construction d'un sanctuaire sur les gens de la caverne, dans ce verset. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts, afin qu'ils, les gens de la cité, sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y ait point de doute, et qu'il n'y ait point de doute au sujet de l'heure. Aussi se disputèrent-ils à leur sujet et déclarent-ils construisez sur eux un édifice. Leur Seigneur les connaît mieux, mais ceux qui l'implorent dans la discussion dirent, élevons sur eux un sanctuaire. Et donc, que si c'était très grave, Allah aurait montré la gravité à la suite de ce verset, et donc il dit que les hadiths concernant ceci sont faibles ou faux. Astaghfirullah, pouvez-vous m'expliquer ce verset? Barakallahu fikoum ya Cheikhana, qu'Allah vous préserve et vous élève au plus haut degré du paradis. Cher, j'aimerais vous demander, excusez-moi, du sujet, si vous êtes originaire de la ville de Boudouaou à Boumardès, car mon oncle m'a dit qu'il connaissait un Mohamed ou Mohamed Chalabi, qui était quelqu'un de réputé pour sa science dans cette ville. Si c'est vous ou un de vos proches, je suis. Ah, donc le reste, je vous laisse le lire, cher. Voilà, cher, juste pour avoir, Allah yahfdou, Allah yahfkoum, qu'Allah accorde le firdaous aux admins, ainsi que tous ceux qui sont présents dans le salon. Tafadhal, cher.
طيب je dis inshallah ta'ala la première question. Je dis inshallah ta'ala la première question. Pour le mari qui ne condamne pas le blâmable et ne réprouve pas le shirk, etc. Non. La personne dit que elle va bientôt aller en voyage avec lui. Et que là-bas, comment qu'elle va faire, etc., avec sa famille, est-ce que elle condamne le blâmable ou bien non? Ensuite, elle dit, si mon mari me pousse à faire des péchés, je dis, Allah alam. Premièrement, c'est très important que elle se mette maintenant d'accord avec son mari, que dès maintenant qu'elle se mette d'accord avec lui. Dans certains points, entre autres que Nam soit sûr que yani je ne ferai pas inshallah ta'ala le haram, soit sûr que si en allant là-bas il y a un mariage mixte, que je reste seulement avec les femmes, je rentre pas là où il y a les hommes, que s'il y a la musique je reste pas dans la chambre où il y a la musique. Je t'avertis maintenant, dès maintenant, comme ça si ça va pas, Nam, on va voir comment faire. Si tu dois voyager seul ou là, qu'est-ce qu'on fait? Non, moi je t'avertis dès maintenant pour que tu saches. Maintenant, quand elle va là-bas, s'il accepte bien sûr lui, quand elle va là-bas, comment qu'elle fait avec sa belle-mère et sa belle-famille? Yani, elle va doucement dans la dawa. Parce que ça va lui causer beaucoup de problèmes. L'essentiel quoi? C'est que elle ne fait pas les péchés avec les autres. Et les autres, elle leur fait la da'wa avec hikma. C'est pas en les blâmant ou là en disant vous êtes des perverses ou là. Non. Doucement, doucement avec hikma. Non. Si elle n'accepte pas, elle leur dit seulement, moi, yani, je vous ai juste dit ce que Allah Ta'ala a dit ou là son prophète, mais je ne peux pas, yani, vous contraindre, mais vous aussi, vous pouvez pas me contraindre. Donc vous, inshallah ta'ala, faites ce que vous voulez, mais moi, yani, personne ne peut yani, m'obliger à faire ces choses-là. C'est tout. Mais elle va pas là-bas pour faire des problèmes, sinon tous les problèmes vont tomber sur elle. Et là-bas, c'est une étrangère par rapport aux autres, et elle est chez les autres, elle est chez sa belle-famille, ça va lui causer beaucoup de problèmes. Si elle ne peut pas ordonner le bien et interdire le mal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retire. Se retire dans une chambre et elle reste toute seule. Elle les laisse jouer, entendre la musique, danser, chanter, faire ce qu'ils veulent. Elle se retire dans une pièce et elle ferme la porte quand elle peut rien faire. Sinon, comme j'ai dit, elle doit leur faire passer le message et leur dire, mais avec hikma. Et ce n'est pas le moment là où les femmes sont en train de danser et d'écouter la musique, de rentrer et de leur dire c'est interdit. C'est pas ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un uriner dans la mosquée, il ne l'a pas arrêté au milieu, il l'a laissé terminer. Quand il a terminé, il l'a appelé doucement, il lui a dit, ça ne se fait pas de faire cette chose, la mosquée n'a pas été construite pour uriner, c'est pour dhikr Allah et la salat. Donc toi aussi, si tu peux, tu les avertis auparavant, pour que peut-être, Zama, ils vont t'entendre et ne vont rien faire. Sinon, comme j'ai dit, yani, tu t'enfermes dans ta maison ou là dans une chambre, et si tu n'as pas pu leur dire ça avant, Ça n'empêche pas de leur dire après. L'essentiel, c'est quoi? C'est que j'ai dit, yani, ce qu'il fallait dire, c'est tout. Mais si je vois d'avance que c'est pas les gens qui acceptent et ils disent personne ici ne nous commande, etc., alors je les laisse faire ce qu'ils veulent. L'essentiel, je ne participe pas avec eux. C'est ça l'essentiel, inshallah ta'ala. Le moyen, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Non. Pour leur question de sortir le café, etc., l'innovateur de la famille, etc., etc., etc. Je dis, bien sûr, ils ont les hadiths qu'on sent faible ou faux, etc. Je dis, quand quelqu'un est innovateur, c'est pas une chose simple et facile, yani, pour lui faire accepter le haq. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Il a dit que Allah Ta'ala a mis un voile entre lui et l'innovateur, jusqu'à ce que l'innovateur délaisse sa bid'a. Et l'innovateur, pourquoi il est dangereux? Car il croit qu'il est sur le droit chemin. Tandis que le fornicateur, et celui qui boit l'alcool et prend la drogue, il sait qu'il est dans la faute. Il est plus facile à accepter le haqq, car lui-même, il sait qu'il est dans la faute. Mais l'innovateur, non. Comme a dit Allah Ta'ala, الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Allah Ta'ala, il a dit, ceux qui se sont égarés dans ce bas monde et croient que, yani, ils font la chose juste. À peu près le verset. Et il a dit, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Il a dit, et que penses-tu? Et celui qui, il a dit comme ça, et celui qui, on lui a embelli ses œuvres. Et, Farao Hassanan. Et il les voit belles. Il voit ses œuvres qui sont devenues belles. C'est comme l'innovateur. Ensuite, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala égare qui il veut et guide qui il veut. Je dis donc à cette sœur, le fait que de lui dire il y a des hadiths qui interdisent et qu'il dit qu'ils sont faibles ou ceci, cela, ça veut dire qu'il ne veut pas accepter le haqq. Car c'est un innovateur. Car c'est un innovateur. Ensuite, cet innovateur, on peut lui dire deux choses. Premièrement, moi je te cite des hadiths de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu me cites, yani, moi je te parle de la sharia de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour nous, et toi tu me cites, tu me parles de la sharia, yani, d'un peuple qui nous a précédés. Et vous avez vu avec moi la fois passée que la sharia, la législation des messagers qui nous ont précédés, que si elle est contredite par quelque chose dans notre sharia, qu'elle n'est plus valable. Ça, c'est comme ça qu'on a dit dans le cours passé. Si yani, un des messagers des précédents a dit quelque chose et que cette chose maintenant a été abrogée ou bien contredite dans notre sharia, ça veut dire qu'elle n'est plus valable, on n'accepte plus. On dit aussi à cet innovateur, s'il connaissait bien l'arabe, on lui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de ça, lorsqu'il a dit, إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Ils ont dit, construisez yani, un édifice sur eux. Allah ta'ala a dit, رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ. Ensuite, il a dit, قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Quels sont ceux qui ont dit que construisons, allez, on va construire un édifice sur eux. Allah Ta'ala a dit, الذين غلبوا على أمرهم. Ici, c'est traduit, ceux qui l'emportèrent dans la discussion. Mais en fait, c'est pas comme ça en arabe. غلبوا على أمرهم, ça veut dire ceux qui, yani, comment on dit ça? Ceux qui ont, attendez, je cherche le mot, ceux qui ont imposé, غلبوا على أمرهم, ils ont imposé, ils ont dit, on construit une mosquée. Ce ne sont pas les savants qui ont dit ça, ce ne sont pas Ahl al-Ilm qui ont dit construisons une mosquée. Mais الذين غلبوا على أمرهم, ceux qui yani, étaient dans le faux, les égarés, et qui ont imposé, ils ont dit, on doit construire une mosquée sur eux. Et cela, bien sûr, leur parole n'est pas un délit. Ce sont les égarés qui ont dit ça. Non. Et pas les gens de la science. Donc, Ce n'est pas un délil. Naam. Et puis cela, subhanahu wa ta'ala, t'aider. Et je conseille à cette sœur, naam, de ne pas trop parler avec ce mubtadi'a dans le din. Je dis dans le din. Parce que d'un côté, tu ne pourras pas le convaincre, et de l'autre, quoi? Et de l'autre, yani, il va te faire des ouest-ouest et il va te chagriner. Quand on voit quelqu'un comme ça dans la famille et on discute avec lui, ensuite il ne veut rien accepter, au contraire, il dit des choses, etc., fausses, ça nous chagrine. On passe la nuit, yani, on n'est pas bien. Ou là, on passe la semaine, on n'est pas bien. Donc, évite de parler avec lui dans les choses religieuses, sauf si tu sais que quand tu lui parles, il accepte, il te dit barakallahu fik, où as-tu trouvé ce hadith, etc. Non. Sinon, yani, dis-lui, c'est pas la peine qu'on parle de ces choses-là. Si tu veux qu'on parle, on parle de la shorba, le couscous, et yani, les aubergines, c'est tout. Non. Taïb, autre chose, inshallah ta'ala. Si vous êtes origine de la ville de Boudouin ou Boumerdès, car mon oncle m'a dit qu'il connaissait un Mohamed ou Mohamed Chalabi qui était quelqu'un de réputé pour sa science dans cette ville. Non, ce n'est pas moi. Non. Et moi, je n'ai jamais entendu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait comme ça dans cette ville-là. Non. Et qui était réputé de science. Non. Je ne connais pas cette personne. Peut-être que j'ai un sosie là-bas. Allahu alam. Non. Peut-être que j'ai quelqu'un là-bas qui a le même nom que moi. Non, je ne le connais pas. Mais s'il y a quelqu'un comme ça et avec le nom pareil, nom et prénom, je voudrais bien le connaître. Non, je voudrais bien le connaître. Il faut le tester. Non, ça. Celui-là, il faut le tester. Non, avec les aubergines, etc. pour voir si c'est moi ou si c'est quelqu'un qui parle en mon nom. Comme l'autre qui parlait au pasteur comme mon nom. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas qui parle dans cette ville-là en mon nom. Subhanallah al-Adhim, même nom et même prénom. Non. Il faut le tester aussi avec une autre chose. Il faut lui dire, j'ai pas de maison et je suis venu demander une de vos filles. Et dis-lui, s'il te dit, va, est-ce que tu as une cabane? Est-ce que tu as une cabane dans la forêt? S'il dit comme ça, c'est moi. Si, non. S'il te donne la fille directement, sans cabane, c'est pas moi. Alors voilà le repère, Inch'Allah. Il faut commencer par cette question. Est-ce que vous pouvez me donner votre fille? Non, mais je n'ai rien. Je n'ai pas où habiter. On va à l'hôtel. Non. Ou bien je la prends et je vous la rends comme ça. De temps en temps, je la prends et je vous la rends. S'il lui prépare un bâton, ça veut dire c'est moi. Non. Si quand il lui dit comme ça, ce tchelebi-là, il va lui dire, est-ce que tu peux me... J'ai besoin d'un bâton. Est-ce que tu peux me donner un bâton là? Ou alors m'enlever un bâton de l'olivier. S'il va enlever le bâton, ça veut dire que c'est l'autre, c'est moi. Sinon, c'est pas moi. Taïb, tfaddal. Pour les trois dernières questions, inchallah, tfaddal. Mousseline, est-ce que tu es là? Même toi, des fois, j'ai des doutes. Je me dis, peut-être celui-là, il construit une cabane. De temps en temps, il va et on sait pas où tu es. Hein? Mohamed, il rit. Hein?
Non, mais c'est bon, cher, je suis là, Inch'Allah, je vous fais parvenir les questions. Donc, les trois dernières, Inch'Allah. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la sœur qui a posé la question mercredi dernier sur la pension alimentaire pour mon mari. Comme je vous l'avais expliqué, il est divorcé avec 4 enfants. Lorsqu'il travaillait, il donnait une pension alimentaire de la somme de 80 euros par enfant, ce qui fait 320 euros par mois. Maintenant, nous venons vers vous pour vous demander s'il est toujours redevable de cette pension, car sa situation a changé. Il n'a plus de travail, du coup, il n'y a plus aucune rentrée d'argent, même par l'État. Et c'est difficile de sortir de l'argent qui ne rentre pas. Il ne peut pas donner cet argent, car il n'en a pas. Voilà pourquoi j'insiste avec cette question, car son cœur n'est pas apaisé. Il ne veut pas avoir de dette et ne veut pas rendre des comptes sur sa... Sur ça, yom al-qiyama. Donc, religieusement parlant, est-il redevable de cette somme pendant le moment où il ne travaille pas, sachant que son ex-femme reçoit de l'argent par la CAF pour les 4 enfants et de plus, elle travaille. Barakallahu fikoum, à vous et les admins, qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans notre ville en France, nous avons un type de madrasa où dans les cours d'arabe, les hommes et les femmes sont dans la même salle. Les femmes à gauche et les hommes à droite. Avec quelques femmes derrière les hommes, puisqu'elles sont plus nombreuses. Il y a le professeur dans la classe. Je ne sais pas s'il faut assister à ce cours. Les personnes présentes dans le cours sont tous âgées de 17 à 25 ans. Conseillez-moi de façon à ce que ça me serve à moi et à ceux qui sont dans mon cas, barakallahu fikoum. Et dernière question pour ce soir, inshallah, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le jugement pour quelqu'un qui parle pendant les ablutions? Wa jazakumullahu khairan. Et dernière chose, cher, concernant le numéro du hadith que je vous ai donné, 5390, c'est peut-être la version arabe. Ça, je l'ai trouvé sur Google. Et c'est peut-être sur la version arabe, car sur la version française, ça ne correspond pas à ce hadith. Tfadal, cher.
Pour la pension, quelqu'un donne la pension, quelqu'un doit donner la pension quand il peut donner la pension. C'est pas quand il ne peut pas, il ne travaille pas, il n'a pas d'argent. Car en islam, il ne va pas voler. C'est pour cela que quand une femme est mariée avec quelqu'un, s'il peut plus, par exemple, dépenser pour elle, il peut plus la faire manger, ni la faire habiller, ni ni. Elle dit quoi? Elle dit, comme on dit en arabe, enfer. Dépense ou divorce. Dépense ou divorce. Non, les savants ont dit, elle peut dire cette phrase à condition quoi? À condition que elle ne savait pas qu'il allait arriver à ce point. Mais si avant de se marier, elle savait qu'il était pauvre et qu'il ne travaillait pas, etc., elle ne peut plus lui dire ça. Car elle est rentrée dans le mariage avec clairvoyance. Avant de se marier, il lui a bien dit, écoute, moi je travaille pas. Ou alors, des fois je travaille, des fois je travaille pas. Et elle a accepté. Dans ce cas, elle ne peut plus lui dire divorce à cause de tu peux pas dépenser. Mais si par contre, elle croyait que il travaillait, etc. Et ensuite, vraiment, elle voit que là, s'il travaille plus, il ne veut plus travailler, ceci, il n'y a plus à manger, etc. Certains savants m'ont dit que c'était permis qu'elle lui dise. Donc pour celui-là, c'est la même chose. Maintenant, il n'a pas yani, comment faire manger, yani, le faire nourrir ou laisser ses enfants. Là, il ne peut pas aller voler. Il ne peut pas aller voler. Mais s'il a de l'argent, il doit donner la pension. Quand il n'a pas, il ne donne pas. Là, maintenant, s'il peut, s'il sait que yani, plus tard il peut les donner en dette, il les donne. Plus tard, si Allah Ta'ala l'enrichit, qu'il donne ce qu'il n'a pas donné et que la femme a payé à sa place, par exemple. Non. Mais s'il meurt comme ça, il n'a pas d'argent et il meurt, Allah Ta'ala lui dira pas pourquoi tu n'as pas fait nourrir les enfants, tout simplement parce qu'il n'en avait pas. Il n'avait pas de quoi les faire nourrir. Et pour autre chose, Allah Ta'ala. Dans notre ville en France, nous avons un type de madrasa où les cours d'arabe. Ou dans les cours d'arabe, les hommes et les femmes sont dans la même salle. Les femmes à gauche et les hommes à droite. Avec quelques femmes derrière les hommes, puisqu'elles sont plus nombreuses. Il y a le professeur dans la classe, je ne sais pas si vous assistez à ce cours. Les personnes présentes dans le cours sont tous âgées de 17 à 25 ans. Conseillez-moi de façon à ce que ça. Nam, il y a de préférence. Je dis de préférence, Nam, que les cours ne soient pas mixtes. Qu'il y ait une femme qui enseigne aux femmes et un homme qui enseigne aux hommes. Et un homme qui enseigne aux hommes. Est-ce que vous m'entendez d'abord, musulman? Alhamdoulilah. Si maintenant, on est dans un endroit où c'est forcé qu'on se trouve comme ça, comme dans une école ou là dans un endroit où quelqu'un est étudiante en médecine ou là. Et elle doit assister. Dans ce cas, si c'est possible, les femmes doivent faire leur possible pour qu'elles soient derrière. Pas elle à droite et un homme à gauche. Ou là, pas elle devant et l'homme derrière. Mais les femmes, comme c'est dans la sunna, toujours derrière. Et les hommes devant. Ça, c'est quand elle doit être dans une classe où il n'y a pas d'autre solution. n'y a pas d'autre solution. C'est imposé comme ça. C'est imposé qu'il doit y avoir des hommes. Dans ce cas, les femmes doivent être à l'arrière et les hommes devant, comme au temps du prophète Sarsem dans la mosquée. Au temps du prophète Sarsem dans sa mosquée, les femmes derrière et les hommes devant, et il n'y avait pas de voile. Il n'y avait pas de voile entre eux. C'est-à-dire l'homme, s'il se retournait, quand il est debout avant de dire Allahu Akbar, s'il se retourne, il voit les femmes derrière lui. Il voit les femmes derrière lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que vous me conseillez ou là, hein? Je conseille s'il y a comment trouver, hein, ou étudier chez une femme, ce serait la meilleure des choses. Ce serait la meilleure des choses d'essayer de trouver comment enseigner chez une femme, hein, ou alors enseigner chez un homme, s'il y a quoi? S'il y a par exemple un voile, s'il y a un voile entre yani, l'homme et les femmes, entre l'homme et les femmes, comme dans la mosquée par exemple de nos jours. Wallahu ta'ala alam. Enfin, pour la dernière question, quelqu'un qui parle dans les ablutions ou là, pendant les ablutions, ce n'est pas interdit. Parler pendant la salate, c'est interdit. Parler pendant les ablutions, ce n'est pas interdit. De préférence, on ne parle pas, mais si on veut parler, on parle. Hein? En faisant les ablutions, hein? On peut dire à quelqu'un, ferme la porte, ou bien décroche le téléphone, ou bien prends la clé, elle se trouve dans tel endroit. Hein? C'est possible et ce n'est pas interdit, il n'y a aucune chose qui est interdite. Maintenant, ça me rappelle, maintenant parlons de l'ablution, ça me rappelle que tout à l'heure, il y avait une question qu'on m'avait posée sur l'enfant qui passe devant la sutra dans la salate. Et que j'avais entendu, j'avais oublié de répondre à cette question. Je dis, quand quelqu'un est en train de prier, un homme ou une femme, il devrait prendre une sutra. Une sutra, c'est-à-dire mettre quelque chose en face de lui, prier en face de quelque chose. Cette chose-là devrait, si on peut, elle devrait dépasser un demi-mètre, ou alors au moins un demi-mètre de hauteur. Mais ce n'est pas obligé qu'elle soit large. C'est-à-dire un bâton, par exemple. Un bâton qu'on plante comme ça devant nous, maalesh, comme faisait le prophète Aslam quand il était dans le désert, il priait, il plantait sa canne. Il avait comme une canne, comme ça, un bâton qu'il avait toujours avec lui. Il le plantait en face de lui et il priait. Donc, ce n'est pas important qu'il soit large. L'important, c'est qu'il soit haut, d'au moins un demi-mètre. S'il n'y a pas quelque chose d'un demi-mètre, maalesh. 40 cm, 30, 20, ce qu'on peut. Et maintenant, dans les maisons, alhamdoulilah, on s'approche d'un mur, on s'approche de l'armoire, on s'approche de la chaise. Même une personne, on peut la mettre comme sutra, comme faisait Abdullah ibn Omar, qui disait à son valet Nafi, il lui disait, donne-moi ton dos pour que je prie. S'il y a beaucoup de gens là dans la mosquée, je dis à quelqu'un, donne-moi ton dos, mais pas de face. Faudrait qu'il me donne son dos. Naam, el mohim. Quand quelqu'un est en train de prier, il a mis une sutra, et la sutra est obligatoire, car le prophète a dit, la tu salli illa ila sutra. Ne prie que derrière une sutra. Ne prie que derrière une sutra. El mohim, quand quelqu'un prend la sutra et il est en train de prier, il a mis une sutra, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire son possible pour que rien ne passe entre lui et la sutra. Il doit faire son possible. Car si jamais passe une fille pubère et plus, et une femme bien sûr, si jamais passe une fille pubère ou bien un âne, ou bien, attendez, je pense au troisième, ou bien un chien noir. Dans ce cas, la salat est nulle. La personne doit refaire la salat. Classe, c'est nul. Elle dit Allahu Akbar de nouveau et commence à prier. Mais s'il passe un enfant, c'est-à-dire une fille qui n'est pas encore pubère, ou bien un chien qui n'est pas noir, ou bien pas un âne, mais une vache ou là, une jument ou là. Dans ce cas, non. Si moi je laisse passer, moi, je vois par exemple un enfant et je le laisse passer. Ou là, je vois un âne qui. Bon, pas l'âne, l'âne, il annule. Un cheval qui va traverser, je le laisse. Toute personne qui laisse autre que les trois qu'on vient de citer, il le laisse passer, il aura perdu la moitié de la récompense de sa salat. D'après le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui est authentique, radiyallahu ta'ala anhu. Donc je répète, si c'est une femme, ou bien un âne, ou un chien noir, j'ai perdu toute la salat, je recommence. À part ces trois-là, si je laisse passer un être vivant, naam, je le laisse, c'est moi qui le laisse, j'aurais perdu la moitié de ma salat. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire la salat, et un mouton a voulu passer. Un mouton, c'est rien normalement. On dit un mouton, ce n'est ni un âne, ni une femme, ni un chien noir. Qu'est-ce qu'il a fait, alayhi wa sallam? Il a couru, naam. Il a couru en se rapprochant de la sutra. Il s'est rapproché d'elle et il a collé, alayhi sallam, il a collé sa poitrine contre le mur pour que le mouton, yani soit pas, le mouton comme ça, il est passé derrière son dos et pas entre lui et la sutra. Donc je dis, résumé, quand on est en train de prier, on fait son possible. Pourquoi? Pour que rien ne passe entre moi et la sutra. Rien ne passe. Maintenant, si jamais un chien noir est passé, ou une femme, ou bien un homme, je recommence ma salat à zéro. Mais si c'est jamais, c'est autre chose, c'est un enfant, ou là, une petite fille, ou là, un chat, ou là, qu'est-ce que je fais? Je fais mon possible pour ne pas le laisser passer, car il va me prendre la moitié de ma salat. Mais si maintenant il est passé, c'est trop tard, je n'arrête pas ma salat, je continue ma salat, car il ne l'a pas annulé. Je continue ma salat, mais je fais de sorte de, yani, d'être en éveil pour que rien ne passe entre moi et ma sutra. Vous savez, quand vous dites Allah ta'ala, vous dites Allah Akbar, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son visage en face de toi. Allah ta'ala n'aime pas qu'il y ait entre toi et lui un intermédiaire, ni un enfant, ni rien. Donc on fait son possible pour ne rien laisser passer quand on prie. C'est pour ça que quand on prie dans la maison, là, il faudrait préparer la salate. C'est pas les enfants, ou à ma droite, ou à ma gauche, et je prie. C'est difficile. Il va passer. J'essaye de les laisser, par exemple, chez leur père, et je vais prier. Ou bien chez un autre enfant, ou là, chez ma mère, je lui dis, gardez 5 minutes, je vais prier. Prier à l'aise. C'est pas prier et surveiller. Non. Et le prophète Hassan, vous savez que des fois, il priait avec la fille de sa fille. La fille de sa fille. Zainab, il la mettait sur ses épaules et priait. Donc, si j'ai peur que si je laisse l'enfant, il va me traverser, il vaudrait mieux que je le mette sur mes épaules et comme ça, il traverse pas. Non. Car quand je le mets sur mes épaules, ensuite, quand je vais me prosterner ou là, je le mets comme ça de côté, il est là devant moi. Ou bien je le mets en face de moi. Mais je ne le laisse pas passer. L'essentiel, c'est qu'il passe pas. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, yom al-arbi'a. Naam. D'ici yom al-arbi'a, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et raffermir nos cœurs et nous aider à appliquer ce qu'on a appris. Et nous aider à appliquer ce qu'on a appris. Wa fikum barakallah, vous aussi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.